I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où je donne chaque jeudi à partir de 6h du matin la parole à une ou un invité pour retracer ensemble son parcours. Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je produis des podcasts d'interview. Vous verrez, j'adore vraiment cet exercice. Mais je fais aussi des émissions en direct sur Twitch, tous les lundis, les mercredis et les vendredis. Et je vous propose également une newsletter hebdomadaire ainsi qu'un forum d'entraide. Vous retrouverez tous les liens et toutes les infos dans les notes de cet épisode. Je suis heureux grâce à ce podcast de pouvoir offrir la parole à des personnalités que vous connaissez peut-être ou pas et de leur donner l'opportunité de peut-être parler de sujets qu'elles ou ils n'ont jamais abordés dans un micro puisqu'ils vont me raconter leur vie de la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Cette semaine, je reçois Erika Fleury qui a fait partie de l'aventure What For, le groupe créé pendant la saison 2 de l'émission Popstar sur M6 au début des années 2000. Elle raconte cette histoire dingue presque 20 ans plus tard, comment elle s'est retrouvée un peu par hasard à faire le casting, plus par défi que par véritable goût artistique de la pop, et comment, petit à petit, elle s'est prise au jeu et est tombée dans le piège du « je suis arrivée jusque là, c'est pas pour me faire éliminer maintenant ». Elle explique aussi les coulisses de l'émission, le jour où elle a appris qu'elle était retenue, comment ils ont ensuite rusé pour se cacher des fans en attendant que le groupe soit révélé dans l'émission, l'enregistrement de cet album à New York, l'immense tournée annoncée et annulée brutalement quelques mois plus tard, faute de vente. Alors qu'au total, les What For ont tout de même vendu plus d'un million de disques. Elle raconte l'après What For, comment elle a vécu cette transition et le regard à la fois dur et tendre sur cette expérience qui aura changé à tout jamais son existence d'artiste. Merci Erika pour sa transparence et son franc-parler. Oh, et j'y pense tant que j'y suis, mais à un moment où elle mentionne son mari dans l'interview, et je n'ai pas eu la présence d'esprit de rappeler que le dit mari est connu puisqu'Erika est mariée et a eu des enfants avec Raphaël Carlier, aussi connu sous le nom de Carlito du duo McFly et Carlito. J'en profite pour faire un peu de cross-promotion entre mes podcasts. Et Carlito était venu il y a quelques années pour parler de paternité dans Histoire de Daron. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode, vous avez l'habitude. Mais assez parlé de Carlito, je vous propose tout de suite d'aller écouter l'histoire d'Erika. On est avec Erika. Salut Erika.
Salut.
Comment ça va?
Ça va très très bien.
Merci beaucoup d'avoir accepté de venir raconter pour la première fois, je crois.
Ouais, toute première fois, comme on dirait. Non, écoute... C'était pas facile pour moi d'accepter parce que comme je t'avais dit un peu en off, ouais. c'est une histoire qui m'appartient, mais qui finalement a appartenu à plein d'autres.
À plein de gens.
Et en fait, la garder pour moi, finalement, c'est pas si important.
Et qu'est-ce qui fait que t'as basculé comme ça, que tu t'es dit, ok, bah c'est peut-être un truc qu'il faut faire maintenant?
Je pense que ma thérapie est terminée.
Ah, t'as fait une vraie thérapie?
Non, non.
Non, mais c'est pas possible.
Mais non, le temps. Ouais. A été une thérapie, ouais. Si tu veux. Non, j'ai pas fait une vraie thérapie. J'aurais peut-être dû, hein. J'aurais dû. Pas peut-être, c'est sûr et certain, j'aurais dû. Mais le temps a soigné les blessures. Et puis, tu sais, le temps, il rend toujours les choses plus douces. Mmh. Hein, quand t'as des souvenirs, c'est toujours plus doux. Donc voilà, ça a nettoyé un petit peu tout ça. Et puis... Et puis c'est une expérience qui est magnifique de toute façon, tu vois, avec le recul, évidemment. Mais après, quand tu vas dans les détails et sur le moment, c'était pas facile tout le temps. Mais donc c'est pour ça que j'hésitais à en parler parce que c'était un peu douloureux pour moi. Puis cette époque a été douloureuse pour moi. Donc ça, je peux pas le nier.
On va reparler.
Ouais.
Mais avant ça, la première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi tu ressemblais, Riga, quand t'avais 7-8 ans?
7-8 ans. Ouais. Alors, 7-8 ans, c'est un âge qui m'a marqué, ça, tu vois.
Ah, ok.
Parce que finalement, ça, 7-8 ans, c'est là où je commençais à chanter. Donc, c'est marrant que tu me poses cette question parce que bah, je chantais, je chantais dans les mariages de mes tantes. J'en ai plein qui se sont mariées quand j'étais déjà petite fille, tu vois, en âge de pouvoir profiter. Et je chantais, j'ai une photo justement, où peut-être que je suis même un peu plus jeune que ça, je suis même plus sûre, 6 ans peut-être, 7 ans, ouais, mais voilà. Et j'étais une petite fille assez calme. Je pense faudra que ma mère aimait pas, enfin mon papa et ma maman confirment. Mais oui, je pense que ouais, j'étais assez calme, assez angoissée quand même. C'est à 7-8 ans j'ai commencé à être un petit peu à réaliser plein de choses sur la vie.
Et la mort notamment.
Exactement. Ouais. Ça m'a beaucoup perturbée et toujours. Donc
ça part pas.
Non, c'est pas quelque chose qui est vraiment parti. Mais tu vois, c'est un peu, c'est à 7-8 ans exactement que j'ai commencé à angoisser. J'étais un peu une grosse anxieuse quand même.
Okay.
Mais je le disais pas. Donc c'est vraiment un truc très intérieur, très intime.
Tu le gardais pour toi?
Ouais, je le gardais complètement pour moi. Oui, j'étais complètement persuadée d'avoir une maladie au cœur. Non, mais vraiment.
Ok.
Genre, je voulais pas aller chez le médecin, je me suis dit, il va découvrir ma maladie. Parce que tu sais, je faisais de la spasmophilie.
Ouais.
Et moi, je savais pas ce que c'était. Et donc, je pensais que c'était mon cœur qui allait mal. Mais du coup, j'en parle à personne pour être sûre que ça ne devienne pas concret, tu vois. Et du coup.
Et donc, t'as fait de la spasmophilie comme ça pendant
des années.
Des années sans.
Ouais, ben si, un jour, mes parents l'ont découvert parce que je dormais chez ma mamie et qu'en pleine nuit, j'ai fait une grosse crise de spasmophilie et que du coup, j'ai eu super peur et j'ai dû aller la réveiller. Et du coup, elle a appelé mes parents et ils se sont rendus compte comme ça que j'en faisais régulièrement. Mais c'est un peu, tu sais, quand tu vas te cacher pour mourir, ouais. Quoi. C'était vraiment ça. Donc, 7-8 ans, c'est vraiment la période où ça a commencé. 8 ans, je dirais. Et c'est marrant. Mais sinon, par contre, au-delà de ça, j'étais quand même plein de conneries. Hein. J'étais pas du tout dépressive. Non, j'étais une petite fille hyper épanouie. J'ai commencé à vouloir chanter à ce moment-là. Même un peu avant, mais bon, tu sais, à 7-8 ans, tu commences à être pas un bébé, ça y est, tu commences à être vraiment une petite fille avec tes petites opinions qui commencent et tout ça, tes envies, tes goûts qui commencent un peu à apparaître. Et moi, je chantais beaucoup chez moi, je commençais à vouloir énormément écouter de musique, mes parents m'achetaient beaucoup de CD, pardon, pas des CD, des disques, qu'est-ce que je dis? Non, les CD sont venus assez vite, mais en fait, en vrai, c'était des cassettes.
Ouais.
Et c'est fou, parce que parfois, je dis à mes enfants, mais vous n'avez pas connu les cassettes, c'est un truc de malade. Voilà, et puis, ils m'achetaient à chaque fois plein de trucs, et mon kiff, c'était d'être dans ma chambre et de déballer mes cassettes, mes CD, de les écouter avec les paroles, parce qu'il fallait qu'il y ait des paroles, sinon ça m'énervait grave quand un artiste ne mettait pas les paroles dans les cassettes. Insupportable.
Et tu chantais au-dessus?
Ouais, et je chantais au-dessus.
Okay.
Mais du coup, je connaissais tout par cœur. Donc, la radio, tout. Ouais, ça, c'est... Voilà, j'étais ça. Et aussi, on faisait des sketchs avec mon cousin. Donc, j'avais toujours une caméra, la caméra de mes parents. Et on faisait... c'est comme ça qu'on occupait nos après-midi, en fait. On faisait des sketchs, on se filmait, on faisait des défilés, on faisait des trucs. Ouais, c'était ça.
Et tu faisais de la musique?
Non.
Non.
Non, je faisais pas de musique. Alors ça, c'est vrai que c'est super étrange. Mais quand t'es petite fille, c'est pas vraiment toi qui... Enfin, c'est vrai que j'avais ce désir super profond de faire du piano et tout ça, mais ça s'est pas fait. Je faisais du sport et tout, et peut-être mes parents, je sais pas, ils m'ont pas poussé dans ce sens-là, mais après, voilà, ça s'est pas fait. Et après, je l'ai vachement regretté, tu vois. Je me suis dit, mais pourquoi, en fait, je l'ai pas compris. Tu vois, je me dis, quand t'as une petite fille qui est prédisposée à être un peu attirée par la musique, en tout cas. Ouais, c'est dommage, mais je sais pas, ça coûtait cher aussi à l'époque, donc voilà, tu vois, il y a plein de circonstances, je pense.
Ouais, c'est sûr.
Ouais.
Ok, et donc comment se passe le collège pour toi, et en fait,
ouf.
Tu continues à chanter toujours?
Non, oui, alors je continue à chanter toute seule.
Ok.
C'est quelque chose que je gardais très intime, je le disais à personne. À part justement à 7-8 ans où j'étais hyper genre, je l'assumais totalement. Mais plus les années passaient, tu vois, l'adolescence, là, attention, l'adolescence, alors non, tu peux pas avouer que tu chantes parce que les gens te demandent de chanter. Alors ça, c'est un truc très spécial quand même. Hein. Quand on dit qu'on est chanteur ou qu'on aime chanter, on te dit, vas-y, chante-moi un truc. Mais c'est impossible. Pour moi, c'était impossible de faire un truc pareil. Ça me gênait, mais c'était horrible. Donc, en fait...
Parce que tu devenais le centre d'attention à ce moment-là, c'est
ça? Ouais. Puis, c'est très spécial de demander à quelqu'un, chante. Tu sais, c'est... normalement, tu dois être dans des circonstances un petit peu. C'est, je sais pas, moi, je pourrais pas te donner d'idée, mais un métier, ah bah oui, tu rencontres un mec dans une soirée, il est boulanger, tu lui dis, bah vas-y, fais-moi du pain. Enfin, tu vois, c'est très chelou, quoi. Donc, voilà. Et ça, c'est un truc qui me mettait super mal à l'aise, et je pense que c'est pour ça que je le disais à personne. Et puis, alors, plus les années ont passé, alors c'était encore pire, mais je chantais, mes parents m'avaient acheté une chaîne karaoké où tu pouvais enlever les paroles des chanteurs. Ça atténuait complètement, en fait, la voix. Des gens, et tu pouvais chanter par-dessus les trucs, alors c'était génial. Et j'ai commencé avec Maria Carré, avec Céline Dion. Alors ça, c'était vraiment à donf. Et avec une de mes tantes qui chante super bien, on faisait ça de nos après-midi, tu vois, tout le temps. Mais pas avec mes copines, enfin ma meilleure amie le savait, tu vois, mais après mes copains, personne ne savait ça. Et jusqu'à longtemps.
Et tu prenais des cours de chant ou alors c'était toujours...
Non, je prenais pas des cours de chant. C'était ça faisait complètement partie de moi, mais je prenais pas de cours, je suivais ma petite vie scolaire tranquille, tu vois.
Et de ce moment-là où t'as peur de dire que tu chantes jusqu'au moment où tu finis par te retrouver au casting de Popstar, est-ce qu'il y a eu à un moment donné un déclic où tu t'es dit ok, en fait c'est un truc que j'aime faire, peut-être que je peux me montrer un peu plus autour de moi,
ouais,
quoi.
Ouais, il y a eu un déclic. Alors, effectivement, c'est super drôle parce qu'en fait, le déclic a été la Star Academy.
Oh, ok.
Tu vois ? Parce que c'est vrai que j'étais hyper timide. Moi, j'étais hyper réservée par rapport à ça. Je sais pas pourquoi. Et quand j'ai vu ce truc, je me suis dit, mais purée, quoi. C'est exactement... ce qu'il me faudrait pour me décoincer de tout ça.
Et oui, l'aspect justement école,
exactement.
Chant, etc.
Et puis d'être avec d'autres, ouais. Tu vois, qui vivent la même expérience et tout ça. Et ça, je me suis dit, c'est vraiment cool. Bon, moi, je connaissais pas du tout ce qui se passait après. Donc, au départ, tu te dis, c'est génial, tu vois. Je crois que j'avais envoyé une cassette à la Starac, mais que je l'avais envoyé super tard, en fait tout était déjà fini, et je m'étais dit bon bah je le ferai sûrement l'année prochaine, et en fait j'avais pas vu que mais il y avait Popstar aussi,
ouais.
Tu vois, donc du coup c'est ma mère qui m'a dit mais tu devrais t'inscrire à... Oui, en fait on était dans le salon et il y a une pub pour Popstar qui est passée sur M6, et c'était la pub genre pour les castings qui recherchaient des gens, qu'il fallait appeler tel numéro et tout ça. Et ma mère écoute ça parce que mes parents savaient que je voulais chanter, et elle me dit bah tu devrais appeler, c'est génial, ça serait trop drôle, tu pourrais déjà tenter l'expérience, ça pourrait te faire un petit peu aussi comment dire ça, tu passer devant un jury, tu vois, ça te fait aussi un peu grandir, voilà, une expérience quoi. Et je dis ouais, bon. C'était pas du tout mon style, tu sais.
C'était quoi ton style à l'époque?
Ah bah mon style, c'était moi j'écoutais tellement de choses qui étaient différentes de ça. Genre ma chanteuse préférée était Alanis Morissette, Nirvana, les Red Hot. Enfin j'écoutais beaucoup de rock, donc beaucoup de rock. Donc pour moi Popstar, c'était genre voilà. C'était pas du tout mon truc quoi. Mais c'est vrai qu'elle m'a dit bah, « appelle pour voir ce qu'ils disent ». Donc on a téléphoné et par curiosité, je pense que ça m'excitait un petit peu. Quoi. Et puis j'ai su qu'ils cherchaient des filles et des garçons quand j'ai appelé. Ah, je me suis dit « ça c'est cool » parce que à l'époque, je me rappelle des L5.
C'était l'émission d'avant.
C'était l'émission d'avant que j'avais suivi à fond.
Hein. Ah, okay.
Ah oui, j'avais suivi à fond, mais... Je savais qu'au final, la musique n'était pas forcément ce que j'allais le plus kiffer, mais alors l'aventure, je l'avais trouvée géniale. Et puis les filles aussi, enfin, je les ai vraiment suivies, et on suivit ça avec ma sœur, et après, à la fin, je me rêvais vraiment de faire cette émission.
Ah ok.
Ouais, ouais. Mais après, ça m'était passé, parce que je me suis dit, de toute façon, après, pour chanter des trucs qu'on va m'imposer, ça va m'énerver et tout ça. Bon, oui. Et du coup, ouais, c'est marrant. Et après, et du coup, c'est quand on a appelé, j'ai trouvé que c'était cool qu'il y ait aussi des mecs qui cherchaient un groupe mix. Et je me dis, ça, c'est marrant. Et parce que peut-être il y aura moins d'embrouilles avec les filles, parce que je sais qu'entre souvent en groupe où il y a 5 nanas qui veulent chanter exactement la même chose et c'est compliqué, je me suis dit, peut-être ça apaisera les choses. Et du coup, voilà, on m'a appelé et puis j'ai eu un numéro de candidat, de casting. Donc en fait, bon, je l'avais, j'avais une date, j'étais inscrite en fait.
Sans vraiment faire la démarche, quoi, tu vois.
Bah, c'est juste tu vois, en faisant la démarche, en étant un peu poussée par ma curiosité, tu vois. Et puis, voilà, et j'avais ce truc-là. Et la veille du casting, je me rappellerai tout le temps, j'étais à Toulouse, donc pas du tout au bon endroit, puisque le casting se passe à Marseille. J'étais à Toulouse, c'est une de mes copines que j'étais allée voir, qui habitait là-bas. Et puis, je lui dis, mais tu sais, j'ai un casting, mais je vais pas y aller, ça me saoule, en fait. En fait, ça n'a rien à voir. J'ai un casting pour Popstar, mais je m'étais inscrite comme ça, et en vrai, je pense pas que j'irai. Elle me dit, mais t'es con, tu devrais y aller. Vas-y, prends ton train demain, tu as le temps, tu vois, tu peux y aller encore, tout ça. Bon. Ça s'était pas très bien passé à Toulouse avec ma copine et en fait, il m'avait un peu saoulé dans cette ambiance là-bas. Et je m'étais dit, bon, allez, c'est vrai, je vais y aller à ce truc. Et puis, on verra bien. Et alors, du coup, voilà, j'y suis allée. Je sais pas si tu veux que je te raconte du coup directement, mais en fait, ma sœur m'a accompagnée au casting de Marseille. Bon, c'était très tôt le matin. Et puis, il y avait énormément de monde. Et des gens qui chantaient à tue-tête. Alors ça, moi, ça m'impressionnait parce que genre, je suis tellement pas comme ça, tu sais, dans la file d'attente, meufs qui chantaient à fond, genre Lara Fabian et tout, j'étais là, waouh, ok. Alors déjà, je me sentais pas du tout à ma place, mais alors vraiment pas. Et je me demandais vraiment ce que je foutais là, c'était sincère. Et on a fait la queue longtemps, et en plein cagnard de Marseille, c'était en juin, et en fait, il y a un moment donné, je dis à ma sœur, bon, écoute, j'en ai vraiment marre de ouf d'être debout à attendre comme ça. Je pense que je flippais, en fait. Faut dire la vérité. Et je dis, tu sais quoi, mais on rentre. On va rentrer, on va prendre le train, on y va, quoi. Elle me dit, bah non. Alors là, excuse-moi, mais je me suis pas tapé 10 heures de queue pour partir maintenant. On y est presque. Donc, on
c'est
va.
C'est marrant que tu étais allée avec ta sœur, tu vois. Un peu comme justement pour qu'elle te retienne si jamais
bah,
tu
voulais te casser. Un peu ça. Okay. Et du coup, elle me dit bah non, franchement, ça vaut le coup. On essaye, tu vois. Oui, bon, d'accord. Ok, t'as raison. Donc, voilà. Et puis, arrivé presque au bout de la file, il y a des mecs. Enfin, j'entendais parler. Oui, peut-être que ça va être fini. Ils vont plus prendre de candidats parce qu'il y en a déjà beaucoup et tout ça. Oh, je me suis dit, bah, tiens, alors là. Franchement, être venu pour rien. Alors, du coup, je suis basculée dans l'autre l'autre côté, tu vois, en me disant, bah non, là, ça serait vraiment con quand même. On a perdu quand même une journée entière. Et puis là, ils disent, bon, on va prendre le dernier groupe et tout ça. Et je faisais partie du dernier groupe et je crois qu'on était. Tu sais que c'est dur de se rappeler de tout parce que les souvenirs de ce genre, de cette expérience-là. Alors, autant il y en a que j'ai énormément gardé, mais alors beaucoup de choses se sont mises dans une petite case, je ne sais où dans mon cerveau et dont je me rappelle pas du tout.
Et tu veux pas trop parce que tu veux
je
pas trop
je pense que je ne veux pas trop y retourner okay. Et que parfois on me parle d'une aventure qu'on a vécue et je suis là bon mais pas du tout je n'étais pas là elle fait bah, bien sûr que oui tu vois et ça me l'a fait plusieurs fois tu vois donc je sais très bien qu'il y a des choses que j'ai pas eu envie de retenir mais ce casting là oui alors je crois qu'on était alors 10 ou 15 je sais plus et il y avait des numéros sur le sol. Et là, on n'était pas filmé. C'est des castings, c'est des pré-castings, en fait. Et c'est des profs de chant, en général, qui nous faisaient passer ça. Et on était 10 ou 15, mais je ne sais plus bien ça. Numéros, ça, je me rappelle des numéros sur le sol, c'était assez impressionnant. Et chacun devait se mettre sur un numéro. Et on devait, dans la file d'attente, ils nous passaient des polycopes avec des chansons. Il fallait qu'on choisisse quelle chanson on voulait faire un tout petit bout pour le casting, tu vois. Bon, moi, j'avais choisi Britney Spears parce que c'était vraiment ce qui pouvait se rapprocher un peu de ce que je pouvais écouter. Et encore, non, parce que sinon, c'était Lara Fabian et bon, c'était pas du tout ça. Mais même si je respecte totalement, c'était pas du tout mon style. Alors, je me suis dit, puis en plus, moi, je suis pas une chanteuse à voix comme ça, tu vois, ça n'a rien à voir. Donc, j'avais pris Britney. Et puis voilà, et donc je chante, bon, j'étais morte de trouille évidemment, et chacun se met à chanter et tout ça. Je me dis, oh putain, il y en a, ils chantent de ouf. Je me disais, laisse tomber, qu'est-ce que je fous là? Mais vraiment, qu'est-ce que je fous là? Et puis, je commence à chanter mon petit bout de chanson, et puis, ok. Et là, tout le monde a fini, et là, le mec, il nous dit, il nous casse un peu, genre, bah donc, c'est pas folichon, c'est vraiment ouf ce groupe, il y en a qu'une qui est retenue, bah, bravo quoi. Et il me donne le ticket. Je fais moi, mais genre, je me suis dit, non, mais bah, là, c'est une blague. Moi, j'étais persuadée qu'il allait tous nous faire rentrer. Et il me dit, bah, mademoiselle, c'était un peu timide, alors bossez pour demain matin. Je vous revois demain matin pour les castings qui commencent. Tout. Alors, je me suis dit, bon, alors là, du coup, tout a changé un peu dans ma tête.
Ah, t'as
vois.
Switché, ouais. Ça y est.
Je me suis dit, on était 15. J'ai été la seule qui a retenu son attention. Je me suis dit, bah, c'est peut-être pas pour rien, finalement. Donc, ça a ouvert quelque chose chez moi que j'avais pas eu au début du casting. Et du coup, bah, je suis rentrée chez une de mes tantes qui habite à Aix-en-Provence. J'étais pas loin de Marseille. Et j'ai appris mon texte, enfin, ma chanson pour le lendemain. Et je crois que c'est... Je m'en rappelle plus. Ah si, c'était Marc Lavoine. Et du coup, j'ai bossé ça. Et le lendemain, évidemment, je passais devant le grand jury. Alors là, par contre, c'était super flippant. Et puis, bah, tu vois, à chaque fois, il me donnait une chance pour le casting d'après, parce que ça durait 3 jours quand même.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout c'est le mien, pour vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée, ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des reco-séries, des reco-cinés, des reco-livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview.
Donc, t'es passé combien de fois Ah oui.
Alors, je suis passée devant donc, le pré-casting. Ensuite, je suis passée une fois, on passait en groupe encore, mais en groupe où on chantait individuellement sur chacun de notre tour. On devait se lever, on était un petit groupe et puis on devait chanter. Là, c'était devant, il y avait Valérie Zetoun, Elisabeth Anaïs, Bruno Vandelli. Et ils passaient tous les trois devant nous au fur et à mesure comme ça. C'était un enfer en vrai. Quand on regarde ça, c'est un enfer. Hein. Je me demande comment je suis pas tombée dans les pommes. Et en plus, le pire de tout ça, c'est que tous les gens qui avaient été sélectionnés au casting de la veille étaient derrière nous sur des chaises en spectateur. Ah, yes. Et du coup, tout le monde, en fait, écoutait chacun qui passait. Tu te voyais clairement te faire refuser devant tout le monde, tu vois, ou te faire accepter. Enfin bref, c'était... Et voilà, on a chanté.
C'était dans le théâtre, non, c'est ça ou...
C'était, non, je me rappelle plus, c'est un parc où il y a un... Moi, je connaissais pas du tout Marseille, okay. Alors tu vois, j'étais dans un endroit, j'y étais, quoi. C'est drôle. Et du coup, et voilà, et puis bah, là, j'ai chanté aussi. Et puis, ils m'ont donné, comme on dit, le droit de revenir le lendemain.
Okay.
Ouais. Alors, je sais plus si c'était le lendemain ou l'après-midi. Même, il y avait un autre truc aussi. Et tu vois, il y a des trucs qui s'effacent. Ça, faudrait que je demande à... faudrait que je regarde les cassettes, mais je peux ça si je me demande à Nico. Ça, Nico, il saura bien. Et,
c'est qui, Nico?
C'est un des quatre.
Ah oui, bien sûr. Ouais. Oui.
Et voilà. Et puis, au fur et à mesure, ils m'ont donné... Lui, là, ça a été ce moment-là, ça a été bon. C'était encore Britney Spears. Pour le vrai casting, c'était Britney. Et puis, après, on passait en individuel, donc là, sans personne derrière et tout ça. Donc, chacun son tour, on avait des numéros sur nos t-shirts et tout ça. Et là, je suis passée devant Valérie, devant vraiment le jury. Ils étaient assis à une table, un peu comme maintenant, on sait. Mm-hmm. Et je suis passée, et là, ils me faisaient parler. Alors, tu viens d'où? T'as quel âge? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Pourquoi le casting et tout ça? Bon, je pense que c'était le pire moment de ma vie.
Pourquoi?
Parce que je devais dire, raconter ça. Enfin, j'avais super peur. J'étais pas sûre de moi. J'étais vraiment, non, j'avais peur, quoi. Franchement, ouais, c'était flippant. Il m'impressionnait vachement, surtout Valérie. C'était ouf.
Et Valérie Zetoun.
Valérie Zetoun, ouais.
Le producteur, en
qui
fait.
Qui était le producteur. Ouais, très enfin, pour moi, il avait un charisme
chez
dingue.
AZ, c'est ça?
Ouais, AZ. Et il te regardait avec des yeux translucide, genre telle, on dirait qu'elle allait te bouffer, te tuer. Non, mais tu vois, c'est, enfin, il était impressionnant. Mmh. Moi, j'avais 21 ans, enfin, même pas. Donc, ouais, je venais d'avoir 21 ans. C'était super, super impressionnant pour une jeune qui avait jamais chanté devant personne, pratiquement. Enfin, tu vois. Et du coup, bon, bah, pareil, ils m'ont dit de revenir. Donc, j'étais contente. Enfin, bien sûr, j'étais contente parce que c'est une victoire. Chaque étape est une victoire. Alors, bien sûr, tu te prends au jeu.
Tu sens ton ambition petit à petit.
Tu sens le truc. Tu sens. Au début, tu dis, OK, bon, spécial, on va y retourner, on va se calmer. Ensuite, OK, t'es encore prise. Bon, bah là, tu rentres dans une compétition, tu vois. Et c'est inévitable. Alors que t'aurais jamais pensé faire cette émission au départ. Moi, je m'étais dit, franchement, je vais aller voir comment se passe un casting. Ça va me permettre, moi, de me confronter à ça, de aussi pouvoir savoir si ça vaut la peine, si je suis douée, voilà. C'était un petit peu pour ça, tu vois.
Sans pression, un peu, quoi.
Ouais, c'est ça. Sans pression aucune. Sauf que la pression a commencé à arriver très fortement quand tu commences à être prise, tu vois, à chaque étape. Et puis, ben, après, la dernière étape était une étape assez difficile, c'est que... il fallait apprendre à chanter et danser en même temps. Et le dernier casting, c'était celui-ci. Donc, on était de moins en moins, évidemment. Et puis là, les groupes commençaient à se créer. Tu commençais à être dans une colonie de vacances. Tu sais, ces trucs que quand tu regardes la Starac, quand j'avais regardé la Starac ou même Popstar la première saison, tu te dis, mais c'est incroyable, ces gens qui pleurent alors que ça fait 3 jours qu'ils se connaissent ou que ça fait que 15 jours. Tu vois, tu captes pas ça.
C'est ultra intense.
C'est ultra intense. C'est comme si tu pars en colo avec tes meilleurs potes que tu connais pas encore, mais tu sais que ça va forcément créer des liens de fou. Et t'es dans la même pression, le stress, tout ça joue un rôle hyper déterminant dans le fait de pas vouloir se quitter et tout ça. Et voilà. Et donc, du coup, j'ai commencé à rencontrer une fille super cool qui est devenue une de mes meilleures amies aujourd'hui. Donc, on est encore en contact, tu vois. On s'est rencontrés à Marseille. Et puis, bien sûr, y a eu Cyril et Nico et Monia. Mais Monia n'était pas à Marseille, elle était à Lyon.
Ok.
C'est la seule qui n'était pas au casting de Marseille.
Ah, vous étiez trois Marseillais, ouais. D'accord.
Ah oui, les Marseillais, ça a marché. Et puis, voilà. Et puis, du coup, avec Cyril, même avant le casting, on s'est rencontrés avant le casting. En fait, on était devenus potes avant. Et avec Nico, ça marchait bien aussi, tu vois. Bon, on s'était moins parlé, mais Cyril, beaucoup. Et du coup, c'est ça qui est assez hallucinant, c'est qu'au casting de Marseille, donc la dernière étape, danse et chant, ils créaient des groupes de filles et garçons. Et en fait, on ne savait pas, mais en fait, ils essayaient déjà de voir qui pouvait matcher avec qui. Donc effectivement, il n'y a pas que la voix qui joue hein, dans ces émissions-là. Il y avait le couple va bien ensemble, s'il y a une osmose entre tout ça. Et puis, du coup, ils m'ont mis avec Cyril. Donc je suis passée avec Cyril à cette étape-là. Et,
marrant.
Ouais, marrant, vraiment. Et du coup... je pense que... Et après, en ayant discuté avec Elisabeth et Valérie par la suite et tout ça, ils savaient, en fait, ils voulaient, dès Marseille, pour eux, c'était ce couple-là aller jusqu'au bout.
Ah ouais ?
Ouais. Enfin, c'est ce qu'ils désiraient.
Ouais, ouais.
Il fallait que nous, après, on assure et qu'on passe ces étapes-là. Mais en vrai, ils se sont dit, là, c'est évident que ces deux-là, normalement, ça le fera.
C'est marrant,
ouais.
Parce qu'ils n'avaient pas encore vu tout le monde, j'imagine, non plus.
Ils avaient vu tous les potentiels. Pendant 2-3 jours, ils ont vu tout ce qui avait un potentiel d'aller
jusqu'au
bout.
Dans les autres villes, tu vois.
Ah, Paris, dans les autres villes, enfin, ouais, vois, bien sûr. Mais je crois que... Est-ce qu'en Marseille, on n'était pas les derniers ? Je ne me rappelle plus de ça. Mais effectivement, c'est ce que je dis, c'est que c'était une potentielle... comment on dit ?
Ils avaient mis une piécette sur vous, quoi.
Oui, c'est ça. C'est qu'ils ont un peu misé sur ça en se disant si bien sûr ils assurent, si bien sûr ils ont envie d'aller jusqu'au bout et qu'ils nous le prouvent, quoi, tu vois. Mais bon, ça, nous, évidemment, on ne le savait pas. Et du coup, on est passé ensemble, donc on a rigolé parce que c'était marrant, on s'était parlé avant et tout, et bref. Et puis voilà, puis après, t'as le moment où c'est fini, donc le week-end est terminé, et puis tu fais partie des finalistes. Mais. Rien n'est joué parce qu'après ils font une sélection dans leur coin, le jury, Et il te rappelle pour savoir si tu pars à Paris ou pas. Donc, en fait, rien n'était gagné à ce moment-là. Donc, j'ai vécu une période de stress. Je ne pensais qu'à ça.
Donc, tu t'étais vraiment pris au jeu.
Ah, mais je me suis prise au jeu total. Parce qu'en fait, je me suis dit, c'est génial. Moi, je kiffais. Je faisais exactement ce que je kiffais avec plein de gens qui faisaient la même chose que moi. J'étais assez surprise de trouver des gens super sympas. Et puis, en fait, t'as pas envie de lâcher l'aventure parce que c'est une colo. Vraiment. Non, mais je te jure, c'est... t'es dans une colonie de vacances, tu kiffes, tu voyages. Tu savais que si tu partais 15 jours à Paris, ça allait être forcément génial. On était tous dans un espèce de dortoir. On allait kiffer, tu vois. Donc, je voulais absolument faire partie de cette aventure, moi, même sans penser à gagner, tu vois.
Oui, je comprends.
Il fallait que je sois avec mes potes maintenant, du coup, qui étaient devenus mes potes. Et du coup, on s'appelait. Ça a duré bien 10 jours quand même. Et puis moi j'avais un copain à l'époque qui comprenait pas du tout parce qu'il faisait pas partie de ça.
Bah oui.
Tu vois. Et il savait que je voulais chanter, mais il essayait de pas trop le savoir finalement parce qu'il savait que un jour ou l'autre j'allais partir. Parce que dans la ville où on était, il se passait pas grand chose et que Paris, j'avais déjà tellement envie d'y aller avant que je pense qu'il voulait pas le voir vraiment, tu vois.
T'es originaire de quel coin?
Alors moi je suis née en Haute-Savoie. Okay. Je suis évianaise et d'Évian. Et après, mes parents ont déménagé dans le sud quand j'avais 15 ans. Mais du coup, j'y suis restée que 5 ans, parce qu'après, je suis partie un peu au Canada, à Montréal. Et quand je suis revenue de Montréal, j'ai rejoint mes parents dans le sud. J'avais 18 ans, 19 ans. Et je ne pouvais plus supporter de vivre dans une petite ville parce que j'avais été trop habituée à Montréal et tout ça. Et du coup, je me suis dit, il faut que je monte à Paris. Mais je n'avais pas le but de monter à Paris encore. Et surtout que j'étais jeune, je n'avais pas repris mes études. J'avais fait un petit stop à Montréal pour faire un peu ce que j'aimais. Et voilà. Et du coup, j'attendais que ça, en fait.
L'appel de la capitale.
Exactement. Donc là, mon mec... J'arrivais même pas vraiment à en parler avec lui. Il voyait que j'étais stressée. Il me disait, oh là là, c'est bon, arrête avec ton truc et tout. Mais moi, c'était devenu hyper intense, tu vois.
J'imagine.
Et là, en fait, l'autre étape, c'est que les caméras donc, viennent chez toi pour t'annoncer si t'es pris ou pas.
Oh.
Donc, ils te donnent un...
Je me souviens plus de tout ça, mais vraiment, je te disais juste avant que j'ai suivi énormément, mais c'est vrai que je me souviens plus de ces moments-là.
C'est ouf, on avait un appartement avec mes parents au centre-ville de Draguignan. Et en fait, ils m'ont appelé pour me dire, OK, tel jour, l'équipe va venir et ils vont te filmer en train de recevoir le coup de fil de la prod, enfin en tout cas du jury, pour t'annoncer la nouvelle en fait. Donc déjà, je ne savais pas si c'était oui ou non, parce qu'ils venaient chez des gens pour dire non aussi. Hein.
Ah ouais ?
Ah oui, bien sûr. Oh. Ben, ça, on l'avait vu dans la saison 1. Oh. Donc moi, je m'étais... Donc tu ne peux pas te faire... tu peux te faire aucun film, vraiment.
Ça reste... tu restes naturel devant le truc, tu ne peux pas te dire...
Tu sais que de toute façon, ils viennent chez toi et que ça peut être... allez, ciao. Donc bon, là, je me suis dit, s'ils viennent chez moi, qu'en plus, ils me disent non, alors là, les boules. Et en fait, à partir du moment où ça a été filmé, dans ma tête, je me suis dit, t'as intérêt de gagner. Parce que hors de question que tu partes de cette émission sans gagner, parce que tout le monde va te voir. Et là, j'ai commencé à avoir une fierté dans me dire, j'ai pas envie du tout d'être la perdante. Après, on me dit, ah, t'as perdu. J'avais pas du tout envie qu'on me dise ça.
Marrant, ouais.
Et je me suis dit, maintenant que t'as foutu le pied dedans, tu vas y aller. Mais ça, c'est venu après, parce qu'il y a eu une période où j'ai voulu lâcher aussi, tu vois.
Ouais.
Mais donc là, du coup, l'équipe vient à la maison, je me rappelle, les cadreurs et tout ça. C'est ouf, parce que je ne savais pas encore, mais ça allait être des personnes qui allaient nous accompagner très longtemps et dont j'allais être hyper proche.
Bah oui.
Et c'est marrant, parce que c'était un peu les mêmes équipes, tu vois. Et ben voilà, ils sont arrivés à la maison, s'est installé, tout ça. Et là, il y a le téléphone fixe. C'est une autre époque.
Et c'est 2001.
Et oui, et le téléphone fixe sonne et voilà, et on m'annonce que je suis prise pour partir au workshop de Paris. Donc, trop contente. Et donc là, du coup, je fais mes valises et tout ça, et puis je monte à Paris, donc toute seule, dans le train. Non, mais c'était génial, tu vois.
Oui,
Et puis on arrive là-bas, puis alors là, ben, on se retrouve tous à la gare avec tous ceux avec qui on avait été au casting de Marseille et tout ça. Donc c'était trop génial, même si on avait gardé quelques contacts un peu au téléphone et tout ça, c'était pas pareil. On se revoyait, c'était chambé.
Il n'y avait pas de groupe WhatsApp à l'époque.
Il n'y avait pas de groupe WhatsApp du tout. Il y avait les téléphones portables, mais on s'en servait pas comme aujourd'hui, tu vois. Mais il y avait quand même les textos, attention. Et voilà, et du coup, on s'est retrouvés à Paris. Et puis là, ça a commencé à travailler sérieusement. Là, c'était plus du tout, on s'amusait plus du tout. Mais c'était dur. Et là, ça commençait à être dur parce que tous les jours, il y avait des épreuves. Tous les jours, des gens partaient. Tous les jours, on avait des entraînements ou de la danse, le chant, des cours de chant avec des profs de danse et tout ça. Donc là, on a commencé à rentrer vraiment dans le vif du sujet. Ce qui nous, c'était pas trop l'inconnu, puisqu'on avait quand même suivi la saison 1. Et donc, on s'attendait un petit peu quand même à ce qu'il y ait ce genre de truc. Mais bien sûr, tu vis tout par ta propre expérience. Tout est nouveau, du coup. Hein. Donc, voilà. Mais la colo a commencé sérieusement, là, parce qu'on est resté 2 semaines, tu vois. Et donc, c'était fou. Et les gens étaient... Enfin, moi, j'ai adoré passer ces moments-là. Et ça, si c'était à refaire, je le ferais, hein, vraiment, parce que c'était trop drôle, quoi. C'était nos vacances.
Ouais, j'imagine qu'il y a aussi un côté où tu fais le métier que tu veux faire depuis années,
ouais.
Secrètement en plus.
Alors ouais, tu fais le métier que tu veux faire. Alors moi, je ne l'imaginais pas comme ça. Mais je me suis dit, de toute façon, ça peut toujours être une porte de sortie, d'entrée aussi, plutôt. Mais de sortie, ça dépend comment tu vois les choses. Ça peut toujours être un tremplin, comme on disait. Bon, enfin, ça, c'était quand... c'était avant de penser ça. Mais voilà. Bon, de toute façon, tu trouves toujours des excuses et des circonstances atténuantes. Donc écoute, ça a commencé. Et là, on bossait dur, on bossait de ouf. Mais et là, les étapes, elles n'étaient pas faciles. Et là, à chaque fois, finalement, je restais à chaque étape. Mais je commençais à être un peu plus angoissée quand même. C'était pas pareil. Il y avait beaucoup plus de stress. Et puis, on voyait des gens partir de plus en plus. Puis, ça se resserrait très, très fortement.
Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Tu te dis, oh, plus ça va, plus tu te dis, en fait, peut-être que ça va le faire.
Je me suis dit, c'est assez dingue ce qui se passe. Je réalisais pas du tout, mais je me suis dit c'est assez fou et c'est là où j'avais le plus en plus peur en fait, parce que je me suis dit si maintenant je ne suis pas prise là, je vais avoir les nerfs, je vais être triste, alors que au départ si j'étais partie dès le début, j'aurais pas regretté. Mais là maintenant, j'avais peur de perdre. J'avais peur de plus être là le lendemain, j'avais pas du tout envie et du coup, j'étais dans un autre état d'esprit, donc beaucoup plus stressée. C'était beaucoup moins la fête. Et en fait, j'ai un peu baissé les bras à un moment donné. Donc, à cette étape-là où on était encore 15, je crois. Enfin, une vingtaine. Et j'avais appelé mes parents et j'avais vraiment pleuré parce que je pense qu'on craquait un peu. Tu vois, c'était tellement de pression.
Beaucoup de stress. Ouais. Dans une bulle.
Exactement. En plus, Et du coup, j'avais pleuré parce que je crois que... je me rappelle très bien d'ailleurs, Valérie... m'avait dit qu'il fallait que je me révèle un peu parce que j'étais trop timide et que si je voulais continuer, il m'avait donné le ticket en me disant attention, j'aimerais bien que tu sois plus expressive, que tu montres plus que tu as envie d'être là. Il m'avait dit ça et ça m'avait vachement vexée à l'époque parce qu'en fait c'était ma personnalité, tu vois. Et donc je me suis dit c'est clair, je serai jamais prise, c'est sûr, c'est mort, c'est moi, je suis comme ça, je peux pas faire semblant.
Mais est-ce que t'avais envie d'être là en fait?
J'avais envie d'être là. Vraiment? Ouais, j'avais super envie
d'être
là.
Tu sais, quand tu parles de ne serait-ce que du style musical qu'il y avait derrière,
oui, mais
etc.,
c'est ça que je te dis, c'est qu'effectivement il y avait des choses qui me retenaient. Il y avait des choses qui me retenaient ici, c'était quand je t'ai dit, je me suis prise au jeu, je me suis prise dans la compétition, je me suis prise aussi à me dire, si ça se trouve, j'ai un avenir avec ça aussi, tu vois, on sait jamais. Et puis j'avais aussi me dire, mais c'est pas du tout ce que tu aimes, c'est pas du tout ce que tu fais, c'est pas du tout tu rêvais pas de ça, à la base. Tu t'en voulais pas au début, donc t'es tiraillée. Mmh. Et là, du coup, c'est compliqué dans la tête, tu vois. Parce que tu te dis, te plains pas. Parce que au départ, c'est pas ce que tu voulais faire. Et puis maintenant, t'es prise au jeu, maintenant tu veux le faire, et puis t'as plus envie de partir. C'était un petit peu.
C'est dur,
et puis t'es jeune, t'as 20 ans. Mmh. Donc, quoi qu'on en dise, à 20 ans, t'es pas du tout encore assez mature pour encaisser tout ça, tu vois. Et donc, Valérie m'avait dit ça. Ça m'avait grave saoulée. J'étais partie pleurer. Et puis, ça avait craqué complètement en disant, ah, c'est chiant, puis c'est nul, je vais partir, je préfère partir. Mais en fait, c'est juste que j'avais super peur du reste. Et puis, en fait, c'était un peu... tu sais, c'est la facilité. Tu dis, vaut mieux que je parte de moi-même plutôt que de me faire virer, tu vois. C'est vraiment ton ego qui en prend un coup. Et puis, en fait, il m'avait juste un petit peu titillé. Après, j'ai su tout ça pour que, effectivement, je me donne encore plus, tu vois.
Il piquait ta fierté, quoi.
Parce qu'il savait que, en fait, j'étais là. Et que je pense qu'il avait capté tout, tu vois. Que j'étais là, mais que moi, c'était pas mon rêve absolu, comme beaucoup de gens dans cette émission, où vraiment ils avaient envie de faire popstar à fond et d'être connus et d'être tout ça. Moi, c'était vraiment assez différent dans ma tête. Et je pense que Valérie le savait, et puis que, enfin, pas que lui d'ailleurs, mais voilà, donc il me poussait un petit peu. Ça a marché. Ça a marché parce que souvent, quand on te pique, tu redémarres très fort le lendemain matin. Et du coup, j'ai un peu pleuré. Ma mère, je lui ai dit, moi, je vais rentrer, en fait. Je pense que je vais arrêter. Elle m'a dit, alors là, c'est hors de question.
Ça dégage. Allez hop.
Ah ouais.
Tu restes.
Elle m'a dit, c'est hors de question. Mes parents, enfin, mon père, je les ai eus tous les deux au téléphone. Ma sœur, elle m'a dit, mais ça va pas. Non, mais tu te rends compte. T'es arrivée jusque-là. C'est trop génial. Je suis sûre. Moi, j'y crois et tout. Et moi, j'étais là, mais enfin, tu te rends compte quand même. Je vais pas gagner Popstar. C'est sûr et certain, tu vois. Et en fait, voilà. Donc, du coup, ils m'ont reboosté.
Mais tu sais, j'ai déjà un peu l'impression que t'as foutu le doigt dans l'engrenage.
Ouais.
Et que, en fait, il y a un truc où maintenant tu peux plus retirer.
Tu peux plus
quoi.
Retirer. C'est pour ça, parce que souvent les gens ils te disent, bah ouais, mais bon, si tu voulais pas le faire, fallait pas le faire et tout ça. Ouais, mais alors quand t'as commencé à mettre un pied dedans, déjà, c'est très difficile d'en sortir parce que je t'ai dit, il y a beaucoup d'éléments qui font que t'as envie de rester. Et puis, t'as ton ego, C'est un truc de la compète qui rentre en jeu, c'est fou. Ce qu'on te fait croire qui va arriver, tu le gardes quand même dans un coin de la tête en te disant, attends, parce que quand tu vois les L5,
bah t'as vu les L5,
ça a quand même cartonné. Il y en a, elles vont sûrement pouvoir faire des choses après. Bon, ça c'est ce que je pensais, mais elles vont pouvoir faire des trucs peut-être solo. Bon, il y en a une qui a réussi un peu, tu vois, Mais voilà, tu te prends au jeu et on te dit, mais tu vas gagner des millions. Tu sais, on n'était pas très, très bien entouré dans cette émission, d'ailleurs. Bon, ça, je t'en parlerai après. Parce que ça, on en a encore à l'époque, à l'étape casting. Okay. Mais et du coup, voilà. Bon, bref, ça m'a reboosté. Et puis, le lendemain matin, je me suis réveillée vraiment déter. Et je me suis dit, je pars pas d'ici tant que je n'ai pas gagné cette putain d'émission. Voilà, et c'était vraiment, c'était comme ça que j'étais le lendemain matin, en warrior. Et puis, il en a été plus que 10. Et puis, ils en prenaient, on ne savait pas combien ils en prenaient, nous, à la base.
Oui, non, c'est vrai.
On ne savait pas, on savait qu'on allait être mélangés, ça pouvait être qu'un, ça pouvait être deux, ça pouvait être quatre, on ne savait pas du tout. Ils nous l'avaient beaucoup répété qu'ils ne savaient pas encore, bon, je pense qu'ils savaient. Mais... Voilà, et du coup, ben... Le dernier, je crois qu'on est reparti chez nous en étant 10 et qu'on est revenu parce qu'eux, ils devaient délibérer tout ça et puis réfléchir. Et quand on est revenu, on était nous 10 et ils en ont pris 4. Voilà. Et franchement, jusqu'au dernier moment, je n'ai jamais su si ça allait être oui ou non. Et ça, par contre, c'est vrai de vrai, c'est hyper sincère. Je n'ai jamais senti un truc...
Tu veux dire de la part
positif.
De la prod,
ouais, c'est ça. De la part de la prod ou du jury, parce qu'il restait très mystérieux. Ça a très bien marché, hein. Et puis voilà, je savais vraiment pas qui prendrait.
C'est comme les gens qui regardent Koh-Lanta, qui sont convaincus que la prod leur file de la bouffe, ouais. Mais ils ont aucun intérêt à faire ça. Ils
exactement.
Veulent, vous laisser le plus
sûr.
Possible authentique.
Et ceux qui regardent aussi, du coup, ils veulent que ce soit optimal. Donc non, c'est sûr. Et je n'ai jamais su. Ouais. Ils m'ont dit, voilà, au casting, ils m'ont dit, le dernier jour, donc, tu rentrais dans la grande salle de danse, et puis ils étaient tous les trois là au milieu, avec les caméras et tout, et t'arrivais toute seule, genre, je croyais que j'allais me liquéfier. Et c'est Elisabeth, c'est qui ? C'est Elisabeth, je crois, qui m'a posé la question, ou c'est Valérie ? Je sais plus. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, tu vois ? Et je lui ai dit, bah, ça. c'est ça que je veux faire, en fait. Et il m'a dit, c'est ça que tu vas faire. Et il m'a filé un dossier. Et en fait, quand on avait le dossier, c'est que c'était bon. Enfin, tu vois, c'était, je ne me rappelle plus quelle couleur, tu vois. Tellement, maintenant j'ai oublié. Je me rappelle que Cyril, c'était bleu parce qu'il lui avait dit, c'est quoi ta couleur préférée ? Et Cyril, j'avais dit, bleu. Il a dit, ouais, c'est ça, c'est bleu. Et il lui avait filé le truc, un truc à la con. Mais bon, et voilà. Mais du coup, c'est là que j'ai su que je faisais partie du délire. Et on était nous quatre. Et c'était assez horrible parce qu'en fait, du coup, ils avaient séparé deux salles. Et il y avait la salle des gagnants et la salle de ceux qui rentraient dans la salle mais qui repartaient bredouille, on va dire, et qui pleuraient dans cette salle-là. Et la salle qui était juste à côté, hein, donc on entendait tout, et la salle qui était juste à côté où nous, on allait découvrir avec qui on allait être.
Ah, yes.
Les gagnants.
Ouais.
Donc moi, je suis arrivée, il y avait Cyril. Donc j'étais super contente parce que c'était franchement c'était mon poteau et j'espérais vraiment être avec lui parce qu'il y avait un feeling et que c'est hyper important à ce moment-là, t'as pas envie de te retrouver toute seule et t'as pas envie de te retrouver avec des gens avec qui t'avais pas eu le feeling, tu vois ce que je veux dire? Donc du coup j'ai vu Cyril, y avait Cyril et Nico ou pas? Il faudrait que je regarde la finale parce que c'est grave, je sais que la dernière à être arrivée c'était Monia, donc oui c'est ça. Non, je crois que j'étais avec Cyril et que Nico est arrivé après et que c'est Monia. Enfin, je sais plus. Oh là là, ils vont me détester. Ils vont me dire, mais tu te rappelles même plus de ça. Enfin, bref. Et on s'est sauté au cou. C'était genre dingue. On était super contents d'être ensemble, tu vois. Et voilà. Et puis voilà, l'aventure a commencé à ce moment-là, quoi.
Waouh.
Du coup, on est reparti en avion chez nous pour faire nos valises et puis pour repartir, quoi.
Vous êtes allé où? Attends.
Alors nous, on est parti chez nous faire nos valises et après direction la Belgique. On est allé dans un studio là-bas pendant un mois et demi, deux mois pour enregistrer notre album.
Ah yes.
Ouais. Bon, avant ça, on est parti à New York en voyage.
Ok. Ah oui, c'est ça. Je me souviens.
On est allé rencontrer le réal de Philippe Cesse. On est allé rencontrer Philippe à New York. Donc c'était notre voyage surprise et moi, j'avais dit au mec de la prod, Enama, que j'aimais beaucoup quand même. Et je lui avais dit, tu pourras me dire s'il te plaît s'il y a un voyage de prévu, parce que moi j'avais regardé la saison 1 et je savais qu'il y avait un voyage qui cachait et qu'ils allaient nous faire une surprise, tu vois. Et moi j'avais très 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 peur de l'avion. Et je détestais ça, je déteste toujours ça d'ailleurs. Et j'avais dit, s'il te plaît, me dis pas la destination, mais dis-moi au moins le nombre d'heures de vol que je puisse me préparer, tu vois. Donc il m'avait dit, prépare-toi, là dans quelques jours on part. Et c'est un long voyage. Tu vois, donc j'étais là, bon, je lui dis combien. Il pouvait pas me dire trop, tu vois, mais j'étais là, quoi, 6, il me dit un peu plus. J'étais là, bon, ok, c'est la merde. Et du coup, on est parti à New York. Alors là, on avait l'impression d'être en vacances, nous. On voyage à New York tous les quatre. On commençait à se connaître, enfin, on apprenait à se connaître. Et voilà, quoi. C'était vraiment une aventure ouf. Et puis après, on est revenu du coup en Belgique pour travailler,
okay,
pour faire l'album. On a écouté nos titres quand même à New York. On était dans des studios où on écoutait les titres qui avaient été sélectionnés pour notre album. Alors tu vois, ils étaient en anglais. Et après, on savait que des auteurs allaient faire des paroles en français pour nous et tout ça.
Comment ça se passe cette période de découverte justement pour toi?
Spécial, mais trop cool. Franchement, je pense que c'était une des meilleures périodes. C'était vraiment une période où on était super excités, super contents d'être là, super contents d'avoir gagné. On ne réalisait pas trop ce qui se passait. L'émission n'était pas diffusée, donc on était tranquille. Bon, on n'avait pas le droit de sortir. Et non, ça c'était super chiant. On n'avait pas du tout le droit de sortir. On devait sortir avec des foulards sur la tête et tout quand on sortait des taxis, tout ça, parce qu'il ne fallait pas que le groupe soit révélé avant l'émission, évidemment. Mais du coup, à New York, tant que l'émission n'avait pas débuté, on était hyper libre. Donc, c'était cool. Tout l'été, on était vraiment... on était bien. À New York, on faisait ce qu'on voulait, tout ça. On se cachait pas. Donc, c'était les vacances. Et puis, on vivait des trucs de fou. On rencontrait des musiciens absolument ouf dans des studios de New York. Mais vraiment, puis nous, on était là, genre... on avait l'impression d'avoir 6 ans, tu vois. Enfin, on comprenait rien, en fait. Tu sais, t'es là, t'es largué dans un truc comment dire, c'est du délire en fait. Tu sais, on t'a posé vraiment, allez hop, kiff, bah ouais, mais du coup, c'est un peu spécial. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué dans la tête, tu sais pas trop ce que tu fais là, mais t'es excité, il y a un truc de ouf. Et puis après, t'as hâte, on avait super hâte de commencer à enregistrer. Parce que moi, c'était vraiment, ça, c'était mon plus gros rêve, tu vois, d'aller en studio, d'enregistrer, de chanter dans un micro, tout ça. Mais ouais, non, mais dans un vrai studio. Alors, pas des moindres en plus, parce que studio à ICP en Belgique, c'était à Bruxelles.
C'est un studio de légende,
super
quoi.
Studio. Mmh. Et du coup, quand on est arrivé là-bas, alors là, c'était le feu, quoi. C'est déjà magnifique. En plus, on avait nos chambres. Bon, moi, j'étais tout le temps avec Monia. Et les garçons étaient ensemble. Mais ça aurait été cool qu'on ait une chambre individuelle. Mais bon, ça ne l'a pas fait. Et puis, c'était un peu là. Là, avec Nico, on est devenus, mais genre, comme frères et sœurs, quoi. On s'entendait, mais de malade. Et on a passé notre temps à déconner. Et à faire des conneries, en fait. Non, mais c'est impressionnant. Genre, en fait, quand j'y pense, parfois, je me marre toute seule encore quand je repense à ça. Mais des gamins, enfin, vraiment, on a déliré de ouf. On prenait... il avait une petite caméra, tu sais, mini DV. Mmh. On filmait tout, on faisait les cons, on faisait des sketchs, on se déguisait. On arrivait complètement déguisés en studio. C'était une super ambiance. Vraiment, pour moi, c'était la meilleure partie. Après, quand ça a commencé, en fait, quand on est rentré à Paris, c'est là où j'ai beaucoup moins kiffé.
Pourquoi ?
Parce qu'à Paris, bah, l'émission a commencé. Et là, bah, c'est très dur de se voir. C'est très dur de voir ce que M6 a fait de ton image. T'es très déçu. Tu vois, là, tu te dis, ah ouais, désillusion totale.
Mais à quel niveau, tu veux dire ?
Ben, si tu veux, tu sais, nous, on avait complètement... Tu les occultes complètement, les caméras. Mmh. T'as l'impression...
C'est fait pour.
Ben, c'est fait pour. Ouais. C'est ça, le piège. Donc, tu vis complètement nature. Et puis, évidemment, on avait 20 ans, puis on se connaissait pas beaucoup. Puis, il y avait des engueulades. Puis, il y avait des moments où on en avait marre. Puis, on était très fatigués parce que... En fait, on avait un rythme vraiment très, très, très fort, très soutenu. On se levait à 6 heures du mat, on se couchait à pas d'heure. On dormait très, très peu. Et tu sais, quand tu commences à tirer sur la corde du sommeil, de la fatigue, bah, t'es plus trop dans ton état normal, en fait. Mmh. Et la fatigue faisait que bah, tu pouvais... finalement plus être triste ou plus vite facilement être en colère ou avec Monia c'était compliqué entre elle et moi.
OK.
Parce que on était les deux seules filles, que beaucoup on essayait de nous mettre en compétition, tu vois.
Ah.
Et du coup, malgré tout, le fait qu'on ait pu vraiment s'aimer fort et tout ça, ça créait quand même des tensions. Et du coup, c'était compliqué.
Mais tu veux dire, est-ce qu'ils faisaient ça pour
alimenter
l'émission ?
Bien sûr.
Ok.
Bien sûr. Et même pas qu'avec elle et moi, avec aussi les garçons. Il y a eu beaucoup d'engueulades parce que la prod, elle nous emmène là.
Ok. Oui, donc là, tu te rends compte. Que t'es pas juste dans une création artistique.
Exactement. Quand on a quitté le studio, on a compris qu'on rentrait dans une émission. On n'était plus du tout dans une. Au studio, franchement, j'ai pas trop ressenti ça. On était une famille. Il y a une fille qui nous faisait à manger tous les soirs. On avait notre nounou Gabrielle qu'on adorait. On était vraiment une famille. C'était complètement à part. Il y avait les cadreurs, tout le monde était super cool, on commençait vraiment à s'entendre bien, on délirait, on enregistrait, donc c'était vraiment des super bonnes vibes. Par contre, dès qu'on est rentré, effectivement, bah là, c'était très différent. Il a fallu déjà, on a pris conscience que c'était une vraie émission, qu'il y avait une grosse prod derrière qu'on ne contrôlerait pas du tout. Et je pense que... Bon, moi, déjà, je suis un peu d'une nature assez rebelle et je déteste l'autorité. et je m'en suis rendu compte beaucoup là-bas. C'est-à-dire que si on me disait de faire quelque chose, ça devenait très compliqué quand j'en avais pas envie, tu vois. Et on, surtout, on m'obligeait à m'habiller comme... Les fringues, ça a été très compliqué.
Bah oui, parce qu'en fait, ils avaient marketé des personnages, c'est ça. Enfin, en tout cas, ils avaient créé des personnages.
C'est-à-dire que, tu vois, ils imaginaient que moi, je serais la fille très sexy du groupe. Donc, il fallait que je sois très souvent en jupe ou sexy, toutes choses que moi, je ne mettais jamais. Et moi, j'étais rock avec mes Doc Martens, mes jeans, mes trucs, tu vois. C'était mon style. Et puis, moi, j'avais envie d'apparaître comme ça. Sauf que c'était non. Mais quand même, quand tu regardes la pochette de l'album... On est arrivé à ça parce que la pochette, moi je suis en jean baggy avec un petit top, un croc top, d'accord.
Jugez pas, c'était les années 2000, d'accord.
Ah non, mais c'était les meilleures années. et j'ai quand même un jean et des baskets. Donc on a réussi tous à être en jean basket assez très urbain, très cool, comparé à ce qu'ils avaient fait au L5. Alors avec tout le respect que je leur dois, c'était carnaval. Pour moi, j'avais dit, mais en fait, moi, j'avais eu super peur de ça, parce que quand j'avais vu la transformation qu'ils avaient fait sur les filles, je me suis dit, waouh, mais jamais de la vie, on touche à mes cheveux comme ça, jamais de la vie, on me fait des coupes pareilles, jamais de la vie, on m'habille avec des plumes, enfin, c'était genre, pour moi, le carnaval, vraiment. Et je m'étais dit, et c'est là où ça a commencé à pas être cool, c'est que les stylistes, donc, essayaient de nous donner des fringues, et moi, je me sentais pas moi. Et donc, je me sentais pas bien du tout. J'étais pas bien dans mes fringues, quoi. Et c'était mon image qui allait aussi apparaître, bien tu sûr. Vois. Et du coup, c'est là où je me suis dit, je n'ai plus le contrôle, je perds le contrôle et je me sentais vraiment pas bien du tout. Donc, les garçons, eux, au contraire, ils ont été... c'était très, très facile avec eux. Ils étaient tellement cool. En fait, ils s'habillaient comme on leur disait de s'habiller.
C'était facile pour les mecs.
C'était un peu plus facile. Pourtant, il fallait voir. C'était pas toujours très beau. Hein. Ouais. Enfin, c'était toujours un peu n'importe quoi. Mais ils se laissaient un peu plus prendre au jeu. Ils se sont un petit peu lâchés. Ils se sont détendus par rapport à ça. Moi, je n'arrivais pas à me lâcher. Je n'arrivais pas du tout à me détendre et à me dire que c'était pas grave. Tu vois, il fallait que je garde un contrôle, et peut-être même un peu trop. J'avais trop peur. J'avais trop peur de ce que ça allait pouvoir donner après. Puis c'était compliqué, du coup.
Mais c'est ton image, en même temps.
C'était mon image.
T'as 20 piges, ouais. T'as pas envie d'apparaître n'importe comment, quoi.
J'avais pas envie d'apparaître n'importe comment. Mais du coup, ça a créé des tensions un peu trop sérieuses. Parce que, en fait, parfois, donc, je m'engueulais avec les filles de la prod. En disant, mais non, je veux pas ça. Les stylistes étaient super gentilles parce qu'elles me comprenaient. Elles essayaient de trouver des trucs qui pouvaient. Des compromis, comme tu dis, vraiment des bons compromis en me disant, écoute, si tu veux, je te donne un pantalon un peu large, un peu baggy, mais en contrepartie, tu mets un petit top court ou des talons, tout ça. Mais elle avait la prod derrière. Tu vois, tout le monde avait la prod derrière qui forçait et moi qui faisais chier en fait, hein, parce que clairement ils m'ont pris comme ça. Ils m'ont dit, bah, c'est une chieuse, elle nous fait chier, elle fait la gueule pour des fringues. Mais en fait, t'as pas compris que je fais pas la gueule pour des fringues. Et moi, je suis passée pour la meuf qui est pas contente d'être là, qui a pas envie de mettre les fringues qu'on lui donne et tout ça. Mais je n'avais pas envie de ressembler à un épouvantail en fait.
Mais c'est bizarre parce que dans l'émission, le souvenir que j'en ai, c'était plutôt Mounia qui gueulait sans arrêt.
Ouais, parce que elle gueulait, mais moi je faisais la gueule.
Ah, ok.
Voilà, donc on était... Elle gueulait parce que c'est son tempérament, sauf que moi, je me renfermais. Et je me suis... moi, dès que ça va pas, je le dis pas. Je dis pas les choses, à part aux gens avec qui j'étais proche, où je me sentais proche et légitime de pouvoir me confier et tout ça. Mais donc avec les stylistes, ça a été parce qu'elles étaient vraiment super cool. Mais du coup, dès qu'il y avait la prod qui arrivait, moi je me refermais total. Et quand je suis fermée, bah, c'est très très difficile pour moi de revenir à un état normal.
T'as appris depuis ?
Ouais, j'ai appris depuis grâce à mon mari. parce que lui, il est total l'inverse. Ouais. Et que lui, il se bat beaucoup contre ça dans la vie. Il faut dire les choses. Moi, c'est vraiment... j'étais très, très fermée avant. Et ça m'a joué beau. Du coup, ça m'a joué des tours. Mais bon, ça faisait partie de ma personnalité. Donc, je me suis fermée beaucoup. Et du coup, quand il y a les caméras et que tu te fermes... Et moi, je pensais pas
terrible.
À ça. Je pensais pas à ça, tu vois. Ben, on me voit complètement fermée, complètement froide, complètement pas bien, pas heureuse. Puisque du coup... du coup, ça n'allait pas. Et puis, j'ai jamais autant pleuré que dans ces périodes-là. En fait, tous les soirs, j'avais mes parents au téléphone, je pleurais. Parce que déjà, on était très fatigués. Donc, tu pleures d'épuisement, mais tu ne te rends pas compte de pourquoi tu pleures. Mmh. Et puis aussi parce que je savais que l'émission du jeudi allait arriver et que je savais les images qu'ils allaient montrer, puisqu'ils en étaient trop contents, du coup.
Et tu regardais quand même ?
On était obligés, on regardait tous les soirs, tous les jeudis soirs, parce qu'on était filmés en train de regarder aussi un peu, tu vois.
Okay.
Ils montraient un peu les... Parce qu'à un moment donné, on était...
Putain, je t'avoue que j'ai plus ces souvenirs.
Enfin, alors, la première diffusion, on est... Ouais. Okay. Ouais, on regardait tous les quatre. Et puis c'était important qu'on sache qu'ils avaient mis de nous.
Oui.
Tu vois. Puis alors là, à chaque émission, finalement, encore la première, ça allait. Mais à chaque émission, moi j'étais super déçue. Puis je me voyais avec une image de peste un peu. Enfin, pas peste, mais.
Ça te ressemblait pas.
Ça me ressemblait pas du tout. Pas du tout. Et c'est vrai, on aurait dit que j'étais pas contente, quoi. Mais je n'étais pas contente. Pas tout le temps. Mais il y a des moments où. Évidemment, tu filmes 24 heures sur 24 des jeunes. Il y a des passages où ça peut... Si tu mets que les passages négatifs, ça peut être genre l'horreur, tu vois. Évidemment, on va s'embrouiller. Évidemment, je vais pas aimer un truc. Mais si tu montres que ça, les gens te voient comme ça, tu vois. Et du coup, ils avaient fait leur schéma de le perso. Quoi, ça, voilà, ouais. Les persos étaient... Voilà, ça y est, c'était fait. Erika, la chieuse un peu. Monia... elle gueule tout le temps, c'est n'importe quoi. Les gars, bon, ils disent rien de spécial, c'est un peu. Ils sont là, quoi, tu vois. Donc, c'était pas évident.
Ceci dit, c'est cool parce que j'ai. Enfin, en tout cas, moi, j'ai le souvenir que, en fait, de ce fait-là, vous étiez les personnalités un peu fortes du truc, quoi.
Ah, bah ouais, on était. Oh, tu m'étonnes. Oui, on était. Mais en même temps, on a une très forte personnalité. Oui. Ça, c'est indéniable. Je nie pas ça.
Cyril et Nico, j'ai l'impression que même dans la vie, ils étaient un peu effacés, quoi. Introvertis, peut-être. C'est le.
Je peux pas dire qu'ils ont pas de personnalité parce qu'ils en ont énormément, mais c'est vrai qu'on va dire qu'ils se laissaient un petit peu. Ils se laissaient embarquer. Et puis. Mais ce qui est bien, parce que du coup, ils ont profité, tu vois, que moi, j'étais dans la retenue tout le temps, du contrôle. Et aujourd'hui, quand on me dit, mais est-ce que tu le referais ? Oui, mais j'aimerais le refaire avec ma maturité, en me disant, profite des moments où il y a à profiter. Parce que finalement, c'était pas si grave de mettre... Bon, si, en fait, j'avais pas envie d'avoir toujours des jupes... très très courtes. J'avais pas envie qu'on me montre... Moi, ils voulaient faire de moi une Victoria Beckham. C'était leur but. Vraiment, en marketing, c'était comme ça. Mm-hmm. Donc, puis tout le monde disait, ah, bah, il ressemble. C'était génial. Et du coup,
c'est plutôt cool, elle est cool, Victoria Beckham.
Oui, elle est cool, Victoria Beckham, mais...
T'avais pas envie d'être un sosie.
Déjà, j'avais pas envie d'être un sosie, forcément. Et puis, c'est pas ça, c'est qu'en fait, il m'habillait comme moi, j'avais pas envie d'être habillée, ouais. Tout simplement, quoi. Et quand mais n'importe qui, je pense, hein, si on te dit, tu dois être comme ça du jour au lendemain, mais tu te retrouves pas. Et puis déjà que c'était difficile, on était loin de chez nous, on ne voyait plus nos parents, plus nos proches, plus nos amis, on pouvait voir personne, on avait le droit de voir personne. Et on était enfermés dans un loft en banlieue, enfermés dans un loft.
Et parce qu'à l'époque, l'émission, enfin vous, comment dire, le public ne sait pas encore que c'est vous.
Jusqu'à ce que ce soit la dernière émission diffusée le 5 décembre... Enfin non, le 5 décembre, ils savaient qu'on était nous quatre, puisque au fur et à mesure, les castings... Après, il n'y a plus les castings, il y a le groupe qui est révélé, mais du coup, il y a toute la période enregistrement d'album. Là, du coup, les gens savaient. Donc, quand on sortait, on signait des autographes et tout ça, il n'y avait pas... C'était bon. Sauf que la période où on ne pouvait pas sortir jusqu'à ce que le groupe soit révélé, on était enfermés dans un loft. Et avec Monia, on a fait des fugues.
C'était le confinement avant l'heure.
Mais oui, on a fugué, bien sûr. On n'en pouvait plus.
Mais tu m'étonnes.
Bien sûr, les deux cinglées, elles ont fugué. Parce que... Mais avec les deux complices derrière, c'est-à-dire Nico et Cyril qui nous couvraient, tu vois. C'est marrant parce qu'ils ont dû aussi... Moi, je sais que quelque part, ils avaient l'impression un peu de vivre comme si on était tous frères et sœurs et que les deux sœurs, elles leur cassaient un peu la tête, tu vois. Ouais. Enfin... Pas tant, parce que je peux te dire qu'on a ri, ça c'est sûr. Et franchement, rien que pour ça, je le referais, parce que j'ai jamais autant ri. Avec Nico, c'était impressionnant. Mais même avec les autres, du coup. Mais lui, on avait une complicité, voilà, on était fous un peu. Et genre, un soir, moi j'avais un pote qui habitait à Paris. Je lui avais dit, j'aimerais trop venir te voir, tu vois, on n'était pas loin. Et j'ai dit, mais on n'a pas le droit de sortir. Et je lui ai dit, écoute, j'ai dit à Monia, ce soir on sort. Et je dis, c'est quoi ? On saute, on fait le mur, parce qu'il y avait un mec qui nous gardait, tu vois ? Et du coup, on a réussi à prendre la clé, on a fait comme si de rien n'était et tout ça. On s'est habillé avec les fringues qu'on devait mettre le lendemain pour le, dress, pour le shooting. Il y avait toutes des dressings, tu sais, il y avait des portants en bas que les stylistes avaient amené et tout ça. On s'est sapé et puis on est allé, on a fait le mur. Et on a sauté le mur de la maison. Monia a failli se péter la cheville. Donc j'ai eu super peur parce qu'elle a eu vraiment mal. Je me suis dit, bah là, ça serait vraiment très con. Et Cyril et Nico devaient... alors Nico nous aidait à ouvrir la fenêtre pour sortir. Et Cyril occupait le mec qui nous gardait ce soir-là pour faire diversion, pour que nous, on puisse sortir. Et donc on est sortis ce soir-là, chez mon pote. Et c'était cool, parce qu'on avait vraiment l'impression d'être libre, et ça nous a fait beaucoup de bien. On a pris un taxi et tout. Mais ce qui était finalement hyper dangereux, parce que du coup, la prod nous avait... Enfin, avait notre responsabilité, hein, quand même. Et puis, on aurait pu être complètement découverte, puisque l'émission avait commencé. Donc, si on nous voyait toutes les deux ensemble, c'était pas ouf. Et par contre, on s'est fait très vite... on s'est fait très vite... repéré. Donc notre nounou, parce que c'était le régisseur qui était resté pour nous garder ce soir-là, parce que Gabriel était pas dispo. Et là j'ai Gabi qui m'appelle sur Gab, on l'appelait Gab. Gab m'appelle sur mon portable. Et là je me suis dit, on s'est fait cramer, c'est la merde. Du coup c'est un peu comme quand tes parents savent que t'es sorti sans leur dire et tout ça, et qui t'appellent sur ton portable, et t'es là, oh merde, on va passer un mauvais quart d'heure. Et du coup il est venu nous chercher, il a dit, j'arrive, t'es où, donne-moi l'adresse. Donc j'ai donné l'adresse, on faisait pas les malines, mais on rigolait, tu sais, bêtement, comme si on avait 14 ans, quoi. Franchement, c'était trop drôle. Et puis il est venu nous chercher, et puis on s'est mis derrière dans la voiture, même pas devant, tu vois, genre vraiment j'ai l'impression que c'était mon daron. Et on disait rien dans la voiture avec Monia, on se regardait, on avait envie de rire, tu vois, mais par respect on essayait de se retenir. Et puis à un moment il nous regarde dans le rétro, et puis il fait, bon, c'était bien votre soirée. Et du coup, on a explosé de rire, lui aussi. On a dit, c'était chambé. Il a dit, putain, il dit, vous m'avez mis dans une merde. Parce qu'il me dit, moi, faut pas que je dise que vous êtes sorti et tout, sinon je vais me faire défoncer aussi. Vous allez vous faire engueuler et tout ça. Donc, on s'est resté un petit peu entre nous. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui l'ont su, mais que ça s'est bien passé. Donc, c'était super drôle. Donc, on leur en a fait un petit peu baver, mais ça va, ils le méritaient. Tous. Je pense qu'on aurait pu faire bien pire. Mais après, on était super sages. À part ça, on était super sages. Tu vois, c'était pas du tout... on était sages. Après, c'est vrai qu'on avait une forte personnalité, donc on n'aimait pas trop qu'on nous prenne pour des cons, quoi. Mmh. Tout simplement. Et c'est souvent ce qu'ils font. Donc, ça pétait très souvent.
Comment, une fois que l'émission a révélé qui vous êtes et tout, comment tu vis, toi, cette notoriété
Ouais, c'est vrai qu'il y avait ça. La notoriété, bah, ça a été explosif du jour au lendemain. On sortait avec des gardes du corps. On faisait des émeutes partout où on allait.
Bah oui.
Donc, c'était vraiment incroyable.
Pour les auditeurs et les auditrices plus jeunes qui ne connaissent pas,
c'était fou. Quoi. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas ça. Il n'y a plus ça. Mais à l'époque, c'était vraiment incroyable. Les gens nous suivaient dans la rue, en troupeau, quoi. Tu avais l'impression que tu étais une star, quoi. Mais tu n'avais rien fait. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vivais. Et c'est pour ça qu'on me disait souvent... Bon, c'est bien, c'était mignon, les petites filles qui venaient dire, oh, t'es trop belle, tu chantes trop bien, t'es ma préférée, t'es machin. Alors, c'était trop mignon. Mais c'est vrai que moi, je me reconnaissais tellement pas dans cet album et dans ce qu'on faisait, que, encore une fois, je me refermais beaucoup sur les compliments, et parce que je me disais, mais bah, c'est pas moi, en fait. Donc, puis c'est nul ce que je chante. Et puis, enfin. Tu vois, je dénigrais beaucoup ça parce que, en vrai, je savais que c'était pas ce que je voulais faire, mais. Et en même temps, je crachais pas dans la soupe. C'est juste que j'étais dans un engrenage. Et du coup, j'avais été jusqu'au bout. Et il fallait que je l'assume. Mais je l'assumais pas totalement. Donc, quand on me disait que c'est génial, je savais pas quoi répondre, en fait. Tu vois. Bien sûr que je disais merci, mais dans ma tête, je me disais, bon, super si elle savait tout le bordel qu'on vit. Tu vois, enfin. parce que les gens ne savaient pas. Puis après, les gens étaient. Puis après, il y a eu les médias, qui sait que ça a été hyper dur. Parce que du coup, on donnait une image qui n'était pas ce qu'on était, du tout. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on allait quelque part pour des interviews ou des shootings photos ou presse, machin, les gens appréhendaient vachement notre arrivée parce qu'ils entendaient dire qu'on était imbuvable. Et puis, du coup, quand on arrivait, mais ils disaient, on était super sympa, sans vouloir se vanter. On était super cool, quoi, tu vois. Et puis, il disait, et tout le monde, mais je te jure que je pense qu'à chaque fois qu'on rencontrait quelqu'un, il le disait. Mais dis donc, c'est incroyable, je m'attendais à avoir quatre merdeux, et vous êtes trop cool, on s'est trop marré. Je suis vraiment dégoûtée de l'image que vous avez, parce que c'est tout à fait le contraire, quoi. Et du coup, les gens repartaient toujours en se disant, bah, c'est incroyable, on m'aurait menti, quoi, vraiment.
Et donc, après ça, vient le succès aussi.
Bah oui.
Ma boule, parce que.
Bah oui, bah c'est, là, c'est arrivé, donc, premier single qui sort en radio, tout ça, ça cartonne.
Je sais pas que ça cartonne, ça. Enfin, c'est,
pour ouais, moi, ça
c'est,
oui, ça cartonne.
C'est un succès interstellaire, quoi, le truc.
Ouais, c'est un gros, gros succès.
Non, mais en fait, aujourd'hui, tu sais, chez Mademoiselle, on faisait des soirées, là, avant. On y avait karaoké, en fait, tu mettais les watts forts, tu mettais plus haut, ça pétait, quoi, tu vois.
Et c'est vrai, bah oui.
En tout cas, sur cette cible-là, tu vois, sur ce public-là, c'est un truc.
Bah oui, totalement. Bah, nous, on a vendu énormément. Quoi. En tout et pour tout, on a vendu 1 million d'albums pratiquement, donc de singles et albums confondus.
C'est beaucoup de disques.
C'est beaucoup de disques, évidemment, c'est beaucoup de disques, surtout aujourd'hui, t'imagines. Mais nous, on est arrivé au moment où l'industrie du disque, elle se cassait la gueule. Donc déjà, c'était vraiment. Alors, nous, on n'a pas eu de bol. Hein. C'était vraiment à ce moment-là que plus rien n'allait. Donc nous, on a quand même subi. Les conséquences et puis
vous aviez la télé tu vois
pour, et puis on n'était que les deuxièmes
oui
tu sais les premiers c'est toujours les premiers le deuxième on était un petit peu habitués c'était un groupe mixte donc il y a peut-être aussi que les filles qui étaient très fans de girls band et tout ça se sont un petit peu moins identifiées parce qu'il y avait aussi des garçons enfin tu vois ça change il y a beaucoup de choses qui ont changé l'image qu'ils nous ont donnée était pas ouf. Donc il y a eu plein de choses. C'est vrai que nous, ça a peut-être moins marché que les L5, mais ça a quand même énormément marché. Alors, c'est pour ça que moi ça me fait bien rire quand parfois on me dit ah ouais le groupe qui a pas du tout marché, mais t'as suivi ou pas? Parce que bon.
Qui dit que
non mais j'en ai eu des j'en ai eu mais même parfois sur Instagram et tout je reçois des messages en me disant ah ouais t'es dégoûté parce que ça a jamais marché ce groupe qui a jamais décollé bah alors en fait c'est juste que par rapport à d'autres tu peux te dire oui alors effectivement il y a eu moins de ventes que les L5 maintenant on était très contents quand même du résultat sauf que nous il s'est passé un truc très étrange c'est que on n'a pas fait de tournée. Et ça, on n'a pas su vraiment le pourquoi, du comment, qu'est-ce qui s'est passé, mais ça a été annulé. Je pense qu'ils avaient prévu trop gros, en fait, beaucoup trop gros, et que ça se remplissait pas. Et du coup, du jour au lendemain, ils nous ont annoncé que la tournée était annulée. Tu vois, on rentrait de Saint-Martin, et juste avant de partir, ils nous ont dit ça, c'est une mauvaise nouvelle qu'on a à vous dire, mais à vous annoncer. La tournée est annulée. Et ben j'étais super contente. J'étais rassurée. Ouais.
Tu pouvais revenir à ta vie ou
ben non parce que ça de toute façon c'était mort. Ouais. Tu peux plus retourner en arrière parce que quand t'es dans un succès tel que ce qu'on a vécu nous et on était en pleine notoriété, c'était un gros. C'était énorme. Donc ça c'était sûr que retourner en arrière c'est mort à part aller vivre à l'étranger en fait. Mais je me suis dit, je suis soulagée parce que je me voyais pas les défendre sur scène, ces chansons. Tu vois, je me sentais pas. Alors, peut-être c'était un mal pour un bien, je sais pas. Après, peut-être qu'on se serait éclaté quand même, de toute façon. Mais moi, en tout cas, j'étais un peu soulagée. Et puis, je sais que pas tout le monde n'a été de mon avis. Hein. Mais c'est comme, en tout cas, moi, j'étais soulagée.
Quel regard tu poses sur toute cette histoire avec le recul aujourd'hui, ça fait 15 ans, un peu plus même.
Ouais. Bah écoute, quel regard j'ai aujourd'hui, je...
Ça va faire 20 ans bientôt.
Ouais, ouais. C'est dingue. Hein. Bah ouais, c'était en 2002. Donc, ouais, ça nous rajeunit pas. C'est pas grave. On a vécu plein de choses. Non, non, j'ai beaucoup de... Comment dire, j'ai beaucoup de douceur quand je repense à cette époque maintenant. Même si, au fond, il y a toujours un pincement, tu vois. J'ai toujours un pincement au cœur en pensant à tout ça, à ce qu'on a vécu, à ce qu'ils nous ont affigé, ce que... Ça a été très dur pour nous quand même, surtout l'après.
Oui, j'allais dire, oui.
L'après, il a été très très dur. Et puis non, j'ai rencontré trois personnes qui sont dans mon cœur de ouf. Bon bah un en plus avec qui j'ai vécu une histoire d'amour aussi, donc faut pas, je peux pas le nier, tu vois.
Je savais pas.
Ah tu savais pas?
Mais non.
Ah bah ouais. Avec Cyril, on s'est vachement rapprochés en fait. À la fin. Je pense qu'on avait besoin de, je sais pas, de réconfort, sûrement. Et puis on est resté 3 ans ensemble.
Ah, ok. Ouais. Je suis pas dans les gossips, hein, moi.
Bah non, sais. Mais ouais. Bah c'était assez dingue ça parce que du coup moi à l'époque j'avais quand même quitté mon copain pour monter à Paris du coup. Et puis au départ je l'avais pas quitté, mais je me suis très vite rendu compte que ça pouvait pas coller puisque de toute façon j'avais plus le temps. Même de penser à lui, je pouvais plus. Et puis, on n'était plus du tout sur la même longueur d'onde, en fait, tu vois. Lui, il comprenait pas trop ce que je vivais, puisque déjà, il avait pas très envie de comprendre, ce qui est normal. Hein. Et puis, moi, j'avais envie de vivre à fond une aventure avec tout le monde. Et c'est vrai que j'ai délaissé. Mais voilà, ça s'est terminé comme ça. Mais ça a été dur pour lui, du coup. Et quand ça s'est fini un petit peu, quand c'était un peu la fin des Watford et tout ça, avec Cyril, on s'est du coup aimé. Et puis, on s'est fait prendre par les paparazzis. Et du coup, quelqu'un nous a appelé. C'était dans l'appartement de Cyril. On est sortis sur le balcon à un moment donné. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et en fait, les paparazzis avaient loué l'appartement en face. Et ils nous prenaient en photo. Et du coup, ils ont vu notre couple éclater au grand jour. Et c'est ce qu'ils attendaient depuis le début de Popstar. Donc, tout le monde attendait ce que Cyril et moi, on soit en couple. Enfin, tout le monde pensait ça, en fait. Et puis, c'était pas du tout le cas. J'en ai vraiment pas voulu très, très longtemps.
Ah oui, tu veux dire que vous n'étiez pas encore ensemble?
Ah non, on n'était pas du tout.
À ce moment-là, quoi.
Bah, quand
c'est
on...
juste les...
Si, si, on était ensemble à la fin,
okay.
Mais au début, pas du tout.
Ouais, okay.
Par contre, c'est Valérie qui voulait absolument qu'on soit ensemble, parce que lui voulait que ça fait vendre.
Ça fait du buzz.
Et bah ouais, ça fait du buzz. Et en fait, j'ai appris que c'est lui qui avait envoyé les paparazzis. Je l'ai appris plus tard. Ouais. Je n'en ai pas voulu, parce que, en fait, c'est le jeu. C'est son... Comment dire? C'est son truc. Enfin voilà, c'est un patron.
C'est un jeu, c'est des dés un peu pipés, quoi, tu vois.
Bah ouais, c'est dégueulasse, on est d'accord. Mais je me suis dit, de toute façon, ça ne m'étonnait pas forcément. C'est un patron, il était là aussi pour ça, tu vois. Enfin, surtout. Donc, moi, parfois, je suis un peu naïve, tu vois. J'étais un peu naïve, même si j'avais une relation très saine avec lui et je l'aimais beaucoup, d'ailleurs. Il m'a beaucoup aidée dans les moments où ça n'allait vraiment pas. Et il a été une écoute quand même, tu vois, un réconfort. Et comme un tonton, tu vois. Il me tuerait sur moi s'il entendait genre un tonton, il aurait envie de...
Tonton Valérie.
De dire, mais oh. Non, non, mais oui, mais c'était un peu ça. Mais tous d'ailleurs, enfin même Elisabeth. Mais c'est vrai qu'à Valérie, on le voyait plus après, puisque lui, il était notre prod AZ et tout. Du coup, il est resté avec nous que Elisabeth, qui était super douce. Je l'adore, tu vois. Elle n'était pas... Après, elle n'était plus du tout avec nous. Et donc, c'est Valérie qui était là. Et du coup, j'ai quand même un respect pour lui. Je ne pourrais même pas lui en vouloir, parce qu'il fait partie de l'aventure, en fait, tu vois. C'est comme ça. Aujourd'hui, tu prends, c'est un package, et puis finalement, tu peux pas en vouloir.
Vous avez monté un petit groupe aussi, un duo avec
Cyril. Avec Cyril, bah ouais, parce que du coup, on n'avait plus que ça à faire. Hein. Non, on était, bah ouais, parce que bah nous, c'est ce qu'on voulait. Mais Cyril et moi, on était, c'était un peu similaire, nous, nos envies, en fait. C'est-à-dire que lui aussi, c'est un très bon musicien. Et puis, je pense que pareil, pour moi, il avait rien à faire ici. Et en fait, il avait des aspirations qui n'étaient pas du tout pop star, et puis qui ressemblaient à rien de ce qu'on a fait. Même lui, il était content quand même de le faire. Tu vois, il le faisait avec plus de... avec moins de frustration, on va dire. Mais c'était, il est très, très doué. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est très bien. Parce que lui, ça, lui là, par contre, du coup, ça, il fait ce qu'il aime, tu vois. Enfin, même si je sais qu'au fond, ce qu'il aime, ça, c'est faire un album aussi. Je le sais aussi, tu vois, que c'est peut-être ce qu'il aurait voulu, tout ça. Mais bon, comme c'est un musicien, un très bon musicien, il a pu faire son trou et c'est top.
Il fait quoi aujourd'hui,
je sais pas. Il compose pour d'autres, okay. il joue.
Il est un peu plus dans l'ombre.
Il est dans l'ombre, ouais. Mais je crois que ça lui va, je suppose, parce que il fait ce qu'il aime, parce que voilà, il est dans l'ombre, mais non, mais il bosse bien et puis il a accompagné des artistes de ouf et puis voilà. Enfin, en tout cas, il fait son truc et il le fait bien, c'est très très cool pour lui. Mais du coup, à cette époque-là, on était tous les deux, du coup, on était amoureux en plus, alors forcément, tu sais, on se sentait un petit peu, on se sentait plus fort.
Il y avait l'effervescence.
Bah ouais, et puis on avait envie de continuer, ça c'est sûr. Donc on a fait un album. Il m'a fait un album en fait. Et qui était plus dans ce que j'aimais moi. Donc bon, et en fait quand je le réécoute aujourd'hui, je me dis bon, oui, effectivement, ça ressemblait un petit peu plus à ce que j'aimais, mais c'était encore vachement. Bon, ça a mal vieilli, mais c'est normal aussi, hein, c'était pas la même époque. Et puis, tu sais, c'était un peu l'époque de Emma Domas, du rock et tout ça, donc on faisait un peu ce genre de choses, mais c'était super. Et après, même si ça n'a pas suivi du tout, en fait. Donc, ils nous ont lâchés totalement. Et du coup, on a essayé de produire notre album, et puis on s'est fait en plus arnaquer par notre manager, tu vois.
Ah ouais?
Ouais. Donc du coup on a perdu notre argent finalement, puis l'album n'est jamais sorti, et puis comme on était encore jeune et naïf, on n'a pas su rebondir à ça, et puis et là on a essayé de se faire oublier un peu.
Il n'y avait pas Spotify en plus à l'époque, non, où tu pouvais te faire connaître grâce au réseau, etc.
Ni Spotify, ni Instagram, ni rien. Aujourd'hui c'est une super époque pour les artistes, moi je trouve. Forcément, il y a à apprendre et à laisser, mais tu vois, t'es artiste et tu veux te faire connaître, tu peux, t'as besoin de personne pratiquement. Qu'à l'époque, on avait toujours besoin d'un prod, d'une maison de disques. Et si on ne te suivait pas, c'était fini, quoi.
Donc, tu dis, vous vous êtes un peu fait oublier ?
On a beaucoup bossé. Ouais. On a fait cet album, ça a été long pour nous. Enfin, c'était éprouvant. On avait récupéré un petit peu d'argent. On a tout mis notre argent là-dedans. Et puis la vie était... c'était un peu difficile parce qu'on n'avait pas gagné tant que ça avec Popstar, en fait. Pour vivre très longtemps sans travailler. Donc après, il y a eu le moment où tu te dis, ok, donc j'ai un loyer à payer qui est super cher parce que Paris, ça déconne pas. On n'avait quand même pas envie de rentrer en province parce qu'on savait que si on lâchait le truc, on le lâchait totalement là. Alors si en plus, t'es pas présent, voilà. Il y a le moment où la question est, il faut que je retrouve un boulot. Et ça, c'est très compliqué. Ça, c'est super compliqué parce que t'es encore connu. Bon, on a laissé quand même passer du temps. Je pense qu'il s'est écoulé... Enfin, moi, j'avais trouvé des boulots où on ne me voyait pas. Je gardais des enfants, tu vois. Okay. Je gardais des enfants dans une famille. Et comme ça, on ne me voyait pas et j'étais tranquille. Mais j'avais vraiment peur de l'image, du regard des autres. C'était la folie.
C'était dur de
C'était super dur. Ouais, c'était super dur de redescendre. Alors pas... ça ne me dérangeait pas. Parce que pour moi, c'est ça la vie. Et j'avais pas vraiment de mal avec ça. Mais les gens étaient tellement méchants, en fait, que nous, on a beaucoup souffert. Enfin, en tout cas, c'était l'horreur. Et heureusement, il n'y avait pas Twitter à l'époque. Parce que sinon, je pense que ça aurait été compliqué. Et là, forcément, je pense qu'il y aurait eu une thérapie. Mais déjà que c'était pas loin. Mais non, les gens, c'était dur, dur. Quand t'es une fille, bon, de toute façon, je vais pas l'apprendre. Quand t'es une fille dans ce métier, c'est très, très, très dur. Et pour les garçons, je trouve que c'était beaucoup plus cool.
Donc, qu'est-ce que tu veux dire par là ?
Parce que il y a énormément de jalousie. Moi, c'est beaucoup des filles qui m'insultaient dans la rue. Sur des trucs dingues, hein, genre « t'es moche »,« tu sais pas chanter, tu t'habilles comme un sac ».« Tu sais, tu fais tes courses et t'entends dans les rayons à côté qu'on te critique, on parle de toi, alors comme si tu n'étais pas là, ouais. Comme si tu étais un fantôme ».
Ne faites pas ça en fait.
Ne faites pas ça.
Les gens vous entendent.
Ne faites pas ça. Dites-le au téléphone le soir quand vous rentrez avec vos potes si vous voulez. Et encore, mais à quoi bon en fait ? À quoi bon descendre comme ça des artistes ? Ne les suivez pas quoi. Juste Moi, c'est pareil. Enfin, je comprends pas la méchanceté des réseaux, tu vois. Aujourd'hui, ça me fait penser. Moi, ça me fait énormément penser à ce que j'ai vécu. Pourquoi s'acharner, en fait? Si t'aimes pas, ne regarde pas. Pourquoi la haine comme ça t'envahit d'un coup? Va faire du sport. Non, mais va déverser cette haine ailleurs, tu vois. Pourquoi s'acharner sur quelqu'un? Moi, c'est, si j'aime pas des artistes, je vais pas aller sous leur vidéo pour leur dire c'est de la merde, je déteste ce que vous faites. Mais je comprends pas, en fait, en quoi c'est constructif et qu'est-ce que ça peut apporter à la personne qui le fait, tu vois.
Mais alors, peut-être que si un jour tu vas en thérapie, t'apprendras que souvent, les gens, ouais, ils font ça plutôt, ils transfèrent leur propre truc.
Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est hyper dur pour les gens qui...
C'est triste pour eux, je trouve.
C'est triste, mais c'est dur aussi pour la personne qui le reçoit.
Non, ben ça, j'imagine.
Parce que même si tu t'y attends, parce qu'on te prévient, on te dit ça va être dur, attention, vous allez avoir des critiques, c'est sûr, ça se passe comme ça. Mais évidemment, parce que personne ne déroge à cette règle. Et on ne peut pas faire l'unanimité, c'est pas du tout ce que je dis, hein. Mais c'est quand même super dur.
Humainement, ouais.
Humainement. Moi, j'ai vécu ça. Ma sœur a vécu ça. Ils n'ont vraiment pas été tendres, mais alors, genre, pire que moi encore. Parce qu'il y a eu elle était dans l'époque Twitter, ouais, et tout ça. Ma sœur qui est Ornella Fleury, qui a été Miss Météo. Mm. Et elle n'est pas tombée au bon moment, en plus. Donc, du coup, on suit ça. Puis bon, bah, avec Raph, enfin, oui, voilà. Du coup, on est habitués. Alors, c'est horrible de dire d'être habitué à ça, mais on sait que ça existe. Et on essaye de faire face à ça sans trop que ça nous touche, tu vois. Aujourd'hui, ça me touche beaucoup moins, bien sûr. À l'époque, j'étais jeune et puis je ne comprenais pas cette méchanceté-là. Maintenant, je sais que ça existe et je sais aussi que, même si je ne la comprends pas, au fond, je ne la comprendrai jamais, puisque moi, je suis plus peace and love. Je n'ai pas du tout envie que quelqu'un vienne m'insulter sans aucune raison. Moi, je ne le ferai pas, en fait. Donc, c'est vraiment un truc que je ne comprends pas, mais ça ne me touche plus. Ça ne me touche plus. Les mauvais commentaires, j'essaie de vraiment me focaliser, me préoccuper que du positif qu'on m'envoie parce que ça me donne de la force. Mais le reste, s'ils pensent que ça va me mettre des bâtons dans les roues, moi, leur avis, en fait, m'intéresse même plus, quoi.
Tu te vois petit à petit sortir la tête de l'eau artistiquement, tu sais, où j'ai la sensation que tu es en train de ressortir des projets. Est-ce que tu es en train de retrouver l'envie aussi?
Ouais, j'ai retrouvé l'envie, bien sûr. En fait, mais moi, je ne l'ai jamais perdue, cette envie. C'était après les Watford, donc on a fait l'album avec Cyril. Moi, on ne l'a pas sorti pour X raisons. Et puis après, on s'est séparés. Donc, une autre histoire a commencé, tu vois. Mais j'ai continué la musique tout le temps. J'ai eu des groupes un peu indés des groupes de rock, des groupes d'électro, mais qui n'étaient pas du tout connus. Mais alors, du coup, c'était super pour moi. Je revenais à des trucs que je revenais à une base, celle par laquelle j'aurais dû commencer, tu vois. Et c'était ça qui me plaisait. Donc, et j'ai eu des groupes super cool et tout. On a même parti parfois faire des concerts. On est parti en Russie. Bon, et après, bah, je suis tombée enceinte. Et après, j'ai eu un désir de grossesse qui était plus fort que tout. Et quand j'ai eu mon bébé dans le ventre, il n'y avait plus grand-chose qui avait d'importance et j'avais vraiment envie de profiter de ça. Et j'avais tellement galéré tout le temps à faire des petits boulots, serveuse, tout ça, des trucs durs parce que c'est des métiers qui ne sont pas faciles quand tu le fais que pour pouvoir faire de la musique et tout ça, tu vois. C'est pas facile. Et du coup, je me suis dit, bon, là, j'ai un bébé, je vais avoir un bébé, je vais me concentrer sur des choses positives. Et j'ai pas envie de galérer, là. Donc, j'avais fait une pause. Et puis, bon, de toute façon, c'est compliqué quand tu viens d'avoir un bébé, hein, pour tout faire en même temps. Et donc, en fait, j'avais vraiment envie de me consacrer à fond à lui. Et puis après, je me suis dit, je recommencerai quand il sera un petit peu plus grand, que je pourrais le faire garder un petit peu et tout. Et puis, je suis tombée enceinte. Et puis, je suis tombée enceinte 10 mois après. Enfin, mon premier fils avait 10 mois. Ouais. Et c'était la cerise, c'était sur le gâteau, puisque, bon, il n'était pas du tout attendu, mais il est venu et je suis hyper heureuse. Et du coup, j'ai enchaîné deux grossesses et puis deux enfants en bas âge. Donc du coup, ça a été la meilleure aventure. Mais du coup, j'ai mis un peu tout ça sur pause, mais c'était pas grave. Et puis, j'ai fait d'autres trucs. Hein. J'ai même fait l'école d'infirmière.
Ah ouais?
Ouais.
Ok.
Ouais. J'avais envie de... J'avais un métier que j'avais trop voulu faire de... quand j'étais petite. Je voulais être chanteuse et sage-femme. Donc, j'avais envie de toucher de très près ça. Et j'avais envie d'y aller. Et donc, je suis passée par le cursus école d'infirmière pour pouvoir faire ensuite une école de sage-femme. Mais en fait, je me suis rendu compte très vite qu'avec les deux enfants en bas âge, c'était vraiment très, très compliqué. Et que j'allais forcément les délaisser un peu. Et moi, je n'y arrivais pas. Je me suis rendu compte que j'y arrivais pas et que, en fait, mes études pouvaient pas passer avant mes enfants. Donc, ça m'a fait vraiment une expérience très enrichissante. C'était vraiment, c'était magnifique de refaire tout ça. Mais je me suis arrêtée en me disant, bon, écoute, dans une autre vie, peut-être je serai sage-femme. Et mais déjà, j'ai approché des salles d'accouchement, des salles de naissance. Déjà, j'ai travaillé un petit peu là-dedans, alors sans être sage-femme évidemment, mais en étant en stagiaire infirmière en maternité, ce qui était pour moi incroyable. Donc voilà. Puis après, ben, en fait, la musique était plus forte que tout. Toujours cette envie. En fait, à chaque fois que je faisais des pauses, ça revenait sans cesse. Et puis j'ai arrêté l'école d'infirmière parce qu'en fait j'avais envie de refaire ça. Et là, je me suis dit, bah, peut-être c'est le moment parce que mes deux enfants étaient à l'école et ça y est, j'avais un petit peu de temps pour moi, un petit peu. Et puis là, bah voilà, là j'ai recommencé à vouloir et là à composer, à écrire, à ce que j'avais jamais osé faire avant. En fait, je pense que j'étais complètement bloquée.
T'avais peur?
Ouais, je me disais que j'étais pas capable. Je pense qu'ils nous ont quand même assez traumatisés, tu vois, en disant, enfin, tout ça, en fait, toutes ces années, tous les débuts de Popstar, des médias, de tout ça, ça nous a un petit peu... Enfin, moi, en tout cas, ça m'a vachement bloquée. Je me sentais pas à ma place et je me sentais pas à la hauteur, tu vois.
Mais comme tu disais tout à l'heure, j'ai l'impression que ça t'a fait passer tellement d'étapes d'un coup et qu'en fait, au final, tu finis par interpréter des textes qui sont pas les tiens, ouais, etc., que... T'oublies peut-être toute la construction. Enfin, tu vois, ouais, tu passes pas par cette étape de construction
tout
de qu'est-ce que je veux, quoi.
Exactement. Je suis pas passée par cette étape-là. Je suis arrivée tout de suite là-haut. Et puis elle est hyper importante, cette étape. Et bon, voilà. Puis du coup, bah, je me suis remise un petit peu aux bases. Et puis bah, là, depuis. Ouais, c'est vrai que ça fait un petit moment où je ressors artistiquement, je m'épanouis, en fait. Et du coup, oui, j'ai un projet qui est en cours. Et je suis super heureuse. Et je vise rien. Je me mets aucune pression. J'en ai pas du tout envie de pression. Mais je fais pour une fois vraiment ce que j'aime. Et c'est plutôt cool. C'est plutôt agréable.
Waouh.
Ouais, c'est plutôt agréable.
Quel chemin, dis donc.
Ouais, c'est un parcours. C'est le parcours du combattant.
Écoute, merci beaucoup, Erika.
Bah, avec plaisir.
D'avoir raconté ton histoire.
Bah c'est ouais, merci. Cool. Merci à toi.
Et franchement, c'est chouette de voir ta progression depuis la petite fille qui osait pas chanter. Quoi,
ouais, toi. Ah bah ouais. Mais tu sais, je suis toujours un peu pareil. Hein. Si on me demande de chanter, je chante pas. Donc.
Mais je ne te demanderai pas. Un grand merci à toi.
Merci.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit... Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend, et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure, à partir de 6h du matin, dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.